premier des rendez-vous santé de la programmation 2019. Donc, comme l'an dernier et l'année précédente, nous avons programmé 4 rendez-vous au cours de l'année. Le premier, donc, ce soir, où Christophe Moreau va pouvoir nous parler de l'adolescence, et en particulier du bien-être et de l'estime de soi. Donc, juste pour recadrer un petit peu, donc, ces rendez-vous sont organisés dans le cadre du contrat local de santé que nous avons signé en juin 2016. Donc, qui implique la communauté d'agglomération Quimperlé-Communauté et l'ARS et puis un certain nombre d'autres partenaires comme le département, la région et puis surtout des acteurs de terrain ici sur le territoire. Donc ces rendez-vous santé sont proposés dans ce cadre-là avec toujours l'idée de parler des questions de santé au sens le plus large et surtout le plus positif possible, mais vraiment dans une dimension de bien-être et de joie de vivre, j'ai envie de dire, plutôt que juste d'absence de maladie. Donc voilà, et on essaye de cibler un petit peu, enfin d'aborder en tout cas les différents âges de la vie et différents aspects. Donc ce soir, l'adolescence, voilà. Vous avez, si vous ne les avez pas encore pris, et après je vous laisse la parole bien évidemment, vous avez des petits flyers qui vous présentent donc le programme des 4 rendez-vous de l'année 2019. Donc n'hésitez pas à les emporter, à les conserver, à les diffuser autour de vous, etc. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire 20h ici, avec une entrée libre dans la limite, bien sûr, des places qui sont disponibles. Et le dernier point que je voulais vous signaler, c'est qu'on a mis, on a déposé donc sur toutes les chaises avant que vous arriviez un petit questionnaire. Si vous voulez bien le remplir avant de partir, pour nous c'est précieux de savoir un petit peu comment vous avez vécu cette soirée et puis surtout de recueillir vos propositions de thématiques pour les rendez-vous à programmer à l'avenir. Voilà, donc je ne vous décris pas la programmation de l'année, je vous laisse la découvrir avec donc des dates qui sont juin, septembre et décembre pour cette année. Voilà, et je laisse la parole donc à monsieur Moreau en vous souhaitant à tous une bonne soirée et un beau moment sur ce thème.
Merci beaucoup madame. Alors, on m'a équipé d'un micro. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, les quelques messieurs. Donc, moi, je suis sociologue. Hein. Je ne suis pas médecin. Je vais vous parler de la santé, mais plus au sens de la promotion de la santé, du bien-être. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos adolescents, les conforter dans ce qu'ils sont, les aider à avoir envie de vivre aussi. Hein. Donc, c'est une approche plus sociologique. Sociale de la santé. Donc pour me présenter, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les questions d'éducation, hein, donc sur la tranche d'âge 11-25 ans à peu près, hein, donc les années collège, les lycées, l'insertion des jeunes, donc sur tout ce qui est politique publique en direction des jeunes, et tout ce qui est aussi protection de l'enfance et politique éducative. On développe de plus en plus des programmes sur le climat scolaire aujourd'hui dans des établissements scolaires pour essayer d'améliorer les postures des adultes dans la sphère éducative, quoi. Peut-être un petit sondage avant de démarrer. Qui sont les parents de collégiens ici? Ça veut dire que vous aurez peut-être à lever la main, à parler, à prendre la parole, puisque je vous laisserai la parole, sinon je vais faire un monologue. Qui sont les parents de lycéens? On retrouve les mêmes, c'est normal. D'accord. Les parents d'âge élémentaire, d'enfants d'âge d'école élémentaire? Il y en a qui ont levé la main 3 fois ou... D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont professionnels de l'éducation ou de la santé ou militants associatifs pour voir un peu si vous êtes juste des parents ou aussi des professionnels engagés ou militants? Très bien. Donc, j'ai prévu... une conférence, donc je m'appuie sur un diaporama. Le sujet est inépuisable, je suis assez bavard, donc ça me sécurise et en même temps, je vais vous présenter pas mal de données, mais je vous passerai la parole au moins à 3 reprises pour discuter un petit peu, échanger. Donc d'abord, je vais parler de façon un petit peu générale sur les adolescents d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être dans les années collège, les années lycée, quelles sont un petit peu les pratiques, le vécu des adolescents. Après, on parlera de quelques chiffres d'épidémiologie, donc sur la santé, qu'est-ce qu'on repère sur le bien-être des adolescents et puis sur la petite part qui sont en fragilité à cet âge-là. Et je vous parlerai aussi de ce qui se passe un petit peu dans le cerveau des adolescents, dans la psyché des adolescents, pour parler des compétences psychosociales. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on sera peut-être amené à développer plus tard sur le territoire, mais au moins introduire un petit peu cette question des compétences psychosociales. Et je terminerai par un petit schéma un petit peu trash sur qu'est-ce que les ados attendent des adultes. Hein, et je vous passerai la parole après chaque. Enfin, vous pouvez m'arrêter n'importe quand, mais après chaque petit chapitre, je vous passerai la parole. Est-ce que ça vous va comme programme? Vous êtes bien installé? Vous m'entendez bien? C'est excellent le petit micro là. Alors, je commence par une petite image. Je me déplace, faut pas que je regarde toujours les mêmes personnes, mais une petite image. Voilà, c'est le titre d'un livre qui est vraiment passionnant. Ça a été écrit par des psychiatres belges. Le titre, c'est 100 ans d'évolution de l'espace-temps adolescent. Et le sous-titre, c'est ça, c'est de la guerre des boutons à Harry Potter. Alors, c'est juste pour se mettre un petit peu dans le bain de qu'est-ce que c'est qu'être ado aujourd'hui. Ben, les auteurs de ce livre, donc 100 ans d'évolution de l'espace-temps adolescent, ils prennent comme repère la guerre des boutons, donc le début des années 1900, quoi, hein. Et puis Harry Potter pour le début des années 2000. Et puis ils disent, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans le vécu des ados pendant cette période-là? Alors tout ça pour vous dire que souvent les adultes, et quand on grandit, on vieillit, on se dit, ah bah oui, de mon temps, c'était comme ci, c'était comme ça. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les choses ont vraiment beaucoup changé, quoi. Donc il ne faut pas forcément aborder la question de l'éducation comme on l'abordait il y a 100 ans. Parce que les choses ont quand même, se sont métamorphosées. Alors, une chose qui a beaucoup évolué, d'abord, c'est que les adolescents ont moins de corps. Alors, ils ont toujours un corps, vous sentez les odeurs de chaussettes et tout ça. Mais par contre, dans l'éducation, ils sont moins confrontés au vivant, à la vie physique, aux arbres, aux animaux, à la mort. Hein, parce qu'à l'époque d'Harry Potter, vous voyez, ils se mettent un petit peu tout nus, ils se tabassent, ils font des bagarres. Ils prennent aussi dans ce livre l'exemple de Père Jacques Hézélias, pas très loin d'ici, dans le pays Bigouden, là, qui, je crois, qui a grandi sur les épaules de son grand-père. Il a appris plein de choses sur les épaules de son grand-père, les champs, les rivières, les chemins. Et puis, à l'époque, on fait des petites risettes aux bébés, on apprend des petites comptines comme ça, en touchant le corps des enfants. Et aujourd'hui, en fait, ce que disent les auteurs, c'est que chez Harry Potter, ben, on est arrivé dans une société plutôt du mot, de l'imaginaire. On est chez Harry Potter dans des formules magiques, mais on est moins ancré dans quelque chose de physique. Alors ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, en matière d'éducation, parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait sur le sens de l'effort, sur les odeurs de sueur, sur le tour de vélo, sur la marche à pied. Mais en fait, on a beaucoup de chiffres, hein. Les gamins d'aujourd'hui font beaucoup moins de marche à pied. Ils vont beaucoup moins à l'école à pied ou à vélo. Hein, mais ces deux chiffres, c'est du genre moins 80%. Hein. Ils sentent moins l'odeur de sueur aussi, ils ont moins d'activité physique. Alors ça, c'est une des transformations. Il y en a d'autres, il y a aussi beaucoup, ce qui est mis en avant dans ce livre-là, c'est la transformation de la famille. Parce que dans la guerre des boutons, la famille, c'est le foyer. Donc le foyer avec ce qu'il a de sécurisant, puis c'est l'autorité du pater familias. Hein, donc il y a une domination masculine, les hommes ont une autorité, puis globalement les parents ont une autorité sur le gamin, mais la famille nous permet de faire face à la vie puis à la mort, parce que la mort elle est présente aussi dans l'environnement. Hein. Et puis il y a plusieurs générations autour des enfants. Hein, il y a papy, il y a mamie, il y a les tontons dans le coin, les cousins. Donc on est structuré avec beaucoup d'adultes autour de nous, beaucoup de transmissions intergénérationnelles. Et pour terminer là-dessus, vous voyez, chez Harry Potter, sa famille, donc ses parents, ils sont imaginés, puisqu'ils sont décédés, hein, et la famille, son foyer, sa famille d'accueil, c'est des fous, quoi. C'est-à-dire que pour Harry Potter, pour grandir, il faut qu'il s'affranchisse de sa famille du quotidien. Hein, donc, donc, en gros, dans notre société, il y a peut-être moins de transmission entre les générations. Et les gamins ont tendance à échapper, à vouloir échapper pour se construire à ce qui se passe dans la famille. Alors, C'est une grande tendance, évidemment, ça dépend des ados, ça dépend des familles, hein, mais globalement, il y a plus de coupures entre les générations. On peut prendre un autre exemple, vous savez, ces jeunes, ils allaient dans le bois de Velleran, ils étaient libres, les gamins, hein, ils ne sont pas pilotés par des téléphones portables à l'époque, hein, donc ils vont dans les bois et puis ils se castagnent avec les voisins, enfin le village voisin, mais en faisant ça, ils reproduisent ce qu'avaient fait les adultes, ils reproduisent ce qu'avaient fait les autres générations. Et ils savent aussi que le garde champêtre peut arriver d'un moment à l'autre. Donc on dit qu'il y a une transmission psychique entre les générations. Il y a une reproduction sociale. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, on essaie toujours de savoir où sont nos gamins, c'est-à-dire on veut toujours les piloter un petit peu, mais on transmet moins finalement d'habitudes de vie, de mœurs, de coutumes. Bon. Alors c'est une petite introduction pour dire que les choses ont quand même beaucoup changé en une centaine d'années. J'ai un dessin comme ça que j'ai pas mis là, mais c'est. Autrefois, il y avait les parents à côté du maître d'école qui regardaient le gamin puis qui disaient, alors qu'est-ce que c'est que ces notes? Il y avait une cohérence entre le maître d'école et les parents. Et puis aujourd'hui, dans l'image, enfin c'est une caricature, il y a les parents qui sont à côté du gamin puis qui regardent le prof puis qui disent, qu'est-ce que c'est que ces notes? C'est-à-dire, on est moins dans la cohérence. Avant, les adultes faisaient corps et les gamins, c'était les petits qui devaient apprendre. Aujourd'hui, on fait corps avec son gamin, puis on va critiquer l'institution. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui ont changé dans la place des adultes et la place des ados. Alors ça, c'est une autre petite image aussi que j'aime bien. C'est, voilà, on porte le pantalon assez bas aujourd'hui, puis c'est surtout pour parler bah, de la société connectée, quoi. Donc je ne veux pas vous faire un topo, je serais bien incapable de parler de la société des écrans. Hein, mais c'est vrai que les écrans occupent le cerveau de nos gamins. Mais il faut aller un petit peu au-delà parce que nos ados, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc en fait, les écrans absorbent notre cerveau, votre cerveau à vous. Et on est tout le temps, enfin souvent, plus ou moins souvent, sur les écrans et on est un petit peu moins disponible pour nos ados. Alors que quand on fait une veillée autour d'un petit feu, d'un petit foyer, on se parle. Moi, dans ma génération, il y avait une télé pour toute la famille, on regardait le même truc à la télé, puis on se parlait. Il n'y avait aussi qu'un téléphone, donc quand mon copain voulait m'avoir au téléphone, il fallait qu'il passe par ma mère. Aujourd'hui, on dit c'est la culture de la chambre. Chacun est devant son écran ou dans sa chambre et voilà, le monde est un petit peu séparé. Et une dernière chose avant de parler de ce que font les ados et de leur situation, c'est l'évolution du passage à la vie adulte. Alors, je ne dis pas ça pour dire que c'était mieux avant, hein, parce que. On a beaucoup plus de liberté, plus de santé, une vie plus longue, des biens matériels. Aujourd'hui, on est dans une société de l'abondance, hein, donc on a tout pour être heureux et on fait partie des plus riches de la planète d'ailleurs, hein. Donc je ne dis pas que c'était mieux avant. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est bien d'intégrer un petit peu ces différents changements dans notre façon d'éduquer les ados. Alors une autre chose qui est très forte, c'est que bon, là, il y a un petit peu trois modèles en sociologie de la jeunesse. Le premier modèle, c'est le modèle ce qu'on appelle de l'intégration. Donc ça, c'est le modèle jusqu'aux années 50-60. Vous apprenez des vieux, et quand vous arrivez à 17-18 ans, hop, vous avez un passage. Alors pour les gars, ils allaient au service militaire, et puis retour du service militaire, autour de 18-20 ans, je me marie, j'ai un travail, j'ai une maison. Il y a un passage. Deuxième modèle, c'est un sociologue, Olivier Galland, qui dit c'est le modèle de l'allongement de la jeunesse. Et on parle d'un modèle de l'expérimentation. Donc là au milieu, ça c'est ma génération, moi je suis né dans les années 70. Donc ça s'est allongé entre 15-16 ans puis 20-25 ans, il y a toute une période où on a dû faire des expérimentations, se former, prendre le travail, faire des expériences amoureuses, avoir plusieurs logements avant de passer dans quelque chose d'un petit peu stable au niveau logement, vie familiale et puis travail. C'était devenu un peu plus compliqué. On arrivait à l'âge adulte un peu plus tard. Et aujourd'hui, on parle de trajectoire yo-yo. Donc, ce qui caractérise aujourd'hui la fin de l'adolescence, ça c'est pour marquer la fin de l'adolescence, ben en fait, c'est que le passage, il n'est pas défini. Hein, donc, il y a un allongement de la jeunesse, on va les garder jusqu'à un certain âge, nos enfants à la maison. Est-ce que ce sera 21 ans? Est-ce que ce sera 18? Est-ce que ce sera 25, 30? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'incertitude et aujourd'hui, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc l'ado a grandi, il est parti en ville, hop, il revient à la maison. Il est allé faire des études, il a pris un boulot, puis ça n'a pas marché, ou il s'est séparé avec sa copine, il revient à la maison. Donc c'est un pas en avant, un pas en arrière, une société de l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quand nos ados entreront dans la vie adulte. Donc ça devient un petit peu plus longuet, cette adolescence, et avec plus d'incertitude. Ce qui est sûr, hein, je n'en reparlerai pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le facteur diplôme en France, il est très important. Donc plus vous êtes diplômé, bah, plus vous êtes longtemps à l'école, évidemment, mais après, plus vous avez d'assurance d'être moins longtemps au chômage, d'être mieux rémunéré et d'avoir du travail. Hein. Et ce qui est vraiment la situation la plus difficile aujourd'hui pour les ados et pour les jeunes, c'est ceux qui sont en échec scolaire ou qui sortent de l'école avec un petit diplôme. Hein, donc en dessous du CAP-BEP ou même, enfin bon, après ça dépend des métiers, mais en dessous du CAP-BEP, c'est très difficile. Hein, et ça, c'est quand même autour de 10-15% de la génération. Hein. Alors après, CAP-BEP, selon les métiers, bon, il y a plein d'insertions. Hein, mais plus vous montez, bac plus 2, bac plus 4, et moins longtemps les gens sont au chômage et mieux ils sont payés. Alors sur le bien-être, je vais utiliser quelques enquêtes qui sont accessibles en ligne. Alors là, c'est les enquêtes HBSC, donc sur la santé des collégiens en France. Et il y a des données comparatives, c'est des données qui sont accessibles hein, pour tout le monde gratuitement. Donc c'est 7 000 collégiens interrogés. Alors ce qui est frappant, vous voyez, c'est que la perception positive de sa vie, donc quand vous arrivez en sixième, on est à peu près à 80-83% des gamins qui ont une perception positive de leur vie. Et ça, c'est un grand chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est à peu près 80-85% des gamins vont très bien. Ils sont optimistes, enfin optimistes plus ou moins, mais en tout cas, ils ont une perception positive de leur vie. Mais ce qui est notoire, c'est que quand on arrive dans les années collège, plus on avance en âge, et vous voyez, chez les filles, on arrive en troisième, aux trois quarts des jeunes filles qui n'ont pas une perception positive de leur vie. Dit autrement, ça veut dire qu'il y a un quart des filles, pendant les années collège, bien qui s'interroge, qui a une perception plutôt négative de sa vie. Bon, chez les garçons, c'est un peu plus stable, mais on a aussi 15% de gamins qui ont une perception négative de leur vie. Donc là, ça amène déjà à deux idées clés quand même, c'est que les filles sont beaucoup plus fragiles aux questions de mal-être à l'adolescence. Et notre système éducatif à l'adolescence crée un peu de mal-être, plus que dans d'autres pays, ça on le sait, puisqu'on a des données comparables. Oh, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Quand on demande à 7 000 adolescents donc à quoi ils attribuent leur valeur personnelle, je ne sais pas si c'est pas très bien collé le PDF là. À quoi vous attribuez votre valeur personnelle? Bah, en fait, ce qui est vraiment défini, enfin, qui définit les jeunes en France, c'est l'école. Donc vous voyez, le score numéro 2, hein, c'est j'attribue ma valeur personnelle à mes résultats scolaires. Donc ça, c'est quand même une conclusion importante et une explication aussi sur le déclin du bien-être, notamment chez les jeunes filles, c'est on est scolaro-centré en France. On mise tout sur le diplôme. Il y a des sociologues qui parlent de la tyrannie du diplôme. Donc les gamins se construisent principalement par leur performance scolaire. Alors ils se construisent aussi par l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Donc dans cette société d'Harry Potter, l'image qu'on donne de nous-mêmes, ben, c'est important. Donc ça passe par les vêtements, par les réseaux sociaux, les photos et tout ça. Hein. Donc tous ces petits trucs-là, ce n'est pas anodin du tout. C'est ça qui va permettre aux gamins ben, de construire leur estime personnelle. Hein. Donc premier facteur pour dire que j'ai de la valeur, c'est l'image que je renvoie. Deuxième facteur, c'est mes résultats scolaires. Un peu plus loin, ma créativité, mes performances sportives. Et quand on leur demande de quel sujet vous parlez le plus souvent avec votre entourage, hein, le plus souvent c'est avec maman. Papa est un petit peu plus loin, il est là aussi, on le voit ce soir d'ailleurs, hein, maman est plus au taquet sur ces sujets-là. Mais vous voyez, le premier sujet, c'est l'école. C'est-à-dire que nous sommes en tant que parents un peu scolaro-centrés. Tu as eu des bonnes notes aujourd'hui? Plutôt que comment ça va tes copines et tes copains? Ça a été en sport ou la musique, c'était bien? Non, tu as eu des bonnes notes? Ou alors, qu'est-ce que tu as mangé? Hein, donc, ça va du tube digestif au résultat scolaire. Et donc, du coup, moi, mon approche, enfin, l'objectif de cette conférence, c'est plutôt parler des dimensions émotionnelles ou affectives et puis sociales. Hein, donc, c'est un petit peu ça le sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit trop centré sur le cerveau scolaire, mais qu'on s'intéresse aux ressentis de nos enfants et puis à leurs relations sociales aussi. Alors, pour illustrer un petit peu qu'est-ce qu'ils font, nos ados, bah, finalement, ils font des choses assez classiques. Hein, alors là, on voit toujours des écarts entre les garçons et les filles, mais c'est un petit peu pour commenter qu'est-ce que font ces 7000 ados. C'est une enquête qui doit dater de 2016. Bon, la première chose qu'on aime bien faire à l'adolescence, c'est écouter de la musique. Hein, donc ça, c'est quand même intéressant. En général, la part des ados qui fréquentent des établissements musicaux, culturels, qui font de la musique eux-mêmes, c'est autour de 15-20% maximum. Et ça permet de développer des choses, ça, la musique. Alors, ce qu'ils aiment faire en plus, c'est comme pendant la guerre des boutons, c'est être avec leurs amis dans la réalité. Alors ça, c'est un autre paramètre à l'adolescence, c'est les amis. Hein, les amis, c'est la bouée de secours ou c'est le soutien numéro un à l'adolescence. C'est ça qui est un petit peu difficile pour le parent. Hein, on va en reparler un petit peu, mais c'est que l'adolescent, il a besoin de s'affranchir des parents pour se construire en tant que citoyen avec ses amis. Donc évidemment, les gamins aiment bien être avec leurs amis. Et ça, c'est d'ailleurs un indice de fragilité. Hein, j'en parlerai tout à l'heure de trois signes qui peuvent nous dire que l'enfant ne va pas très bien dans sa tête, bah quand il commence à ne plus voir ses amis, à être coupé de ses amis, ou à changer très régulièrement d'amis, ça peut être un signe qui nous interroge. Hein, parce qu'un ado qui va bien, bah, il a besoin d'être avec ses copains. C'est le truc qu'il préfère. Alors après, les ordinateurs, vous voyez, sur Internet, c'est à peu près 35-40% des gamins qui disent bah, « Moi, mon truc préféré, c'est l'ordinateur. » quoi, hein, avec les filles comme les garçons. Hein. Écrire, bah les filles écrivent un petit peu plus que les garçons. Après, on va parler des activités sportives. Donc, c'est pas tellement. Alors, les garçons ici sont trois fois plus sportifs que les filles. Hein, et quand on leur pose la question, alors j'insiste toujours là-dessus, c'est pour introduire un petit peu sur leurs pratiques sociales, culturelles. C'est vrai que la question des activités physiques et sportives, alors en France et dans la région, on est plutôt bien dotés. Hein, en Bretagne, nos enfants sont plutôt sportifs. Ça décline à partir de. Après le bac, quoi. Hein, mais avant le bac. L'activité physique et sportive et le sport en club, c'est quelque chose qui est important. Alors, vous voyez, les garçons plus, hein, mais on est à 90% quasiment des garçons qui font du sport loisir. En compète, donc ça veut dire en club, ici, dans cette enquête, on est à 52%. Donc, ça, c'est pareil. Le sport, c'est un élément qui va permettre de se construire une estime de soi positive, qui va se permettre d'avoir des relations sociales, qui permet aussi de s'engager dans du bénévolat. Hein, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer à l'adolescence. Alors, ça va pour l'instant sur la petite introduction. Donc, je vous présente quelques données de santé et puis on discute un petit peu. Après, je parlerai aussi des consommations de produits psychoactifs dans un deuxième temps. Puis on rentrera un peu plus dans le cerveau des ados. Alors, sur la santé, bon bah, en fait, les ados sont inégaux. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont bien. On est tous à peu près d'accord pour dire que 85% des ados ont la super pêche. Ils sont en super forme. Bon, ça veut dire qu'il y en a 15% qui est un peu plus fragilisé au moment de l'adolescence. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a à peu près... on va dire un sous-échantillon, à peu près 5% des ados qui est en souffrance ou en grande souffrance. Hein, donc trois types d'adolescents, trois différents, très différents. Globalement, ils vont super bien. 15% quand même un peu fragiles, et notamment les filles à l'adolescence. Hein, et puis une petite partie, bon, autour de 5% qui est en grande souffrance pour plein de raisons. Les raisons, bah, c'est surtout des facteurs familiaux quand même. Hein, donc j'ai mis quelques chiffres, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette partie-là, bah, elle tend à progresser quoi, en proportion. Hein, ce chiffre des ados en mal-être, c'est une petite minorité, mais ça progresse légèrement. Si vous prenez par exemple les suivis par l'aide sociale à l'enfance, Donc là, c'est des interventions que vous connaissez peut-être, hein, les interventions donc, du département pour prévenir et pour éviter que des gamins soient en danger ou maltraités. Bah, les chiffres en France, ils progressent énormément. Parce que les familles évoluent, se désagrègent, se déchirent, il y a de la crise économique, il y a beaucoup de mobilité, donc on est loin de papa, des grands-parents. Et donc là, on a une petite proportion d'ados qui va pas bien et cette proportion progresse légèrement. Donc dans un collège, quand vous avez un collège avec 400 élèves, bah en gros, vous en avez une vingtaine ou une quinzaine qui va polariser toute l'attention. Vous en avez une grande partie qui va super bien et puis une petite partie qui est un petit peu dans une zone silencieuse, qui peut souffrir en silence, mais qu'on n'entend pas forcément, quoi. Et le rôle des adultes, c'est d'être vigilant sur ces trois publics-là, quoi. Bien sûr, venir en aide à ceux qui vont mal, soutenir ceux qui avancent, qui vont super bien, et rester vigilant par rapport à ceux qui souffrent en silence, quoi. Et ça peut être nos enfants, hein. Alors, ceux qui souffrent en silence, bah, c'est lié à un divorce, une séparation, un déménagement. Déménager, quitter ses copains ou sa famille pour arriver dans un nouvel endroit, c'est souvent facteur de stress. Puis bon, ça peut être aussi la maladie d'un parent. Hein, c'est souvent ça les facteurs qui vont faire que des ados sont un peu fragiles à l'adolescence. Alors sur d'autres chiffres, vous voyez, la part des ados qui vont délinquer, c'est à peu près 1%. Hein, et c'est souvent des ados qui vont pas bien. Hein, vous savez, la justice des mineurs en France, c'est celui qui fait des bêtises, on estime qu'il est victime de dysfonctionnement dans son éducation, dans sa famille. Après, on a des chiffres noirs. Alors, les suivis en santé mentale, en pédopsychiatrie, c'est à peu près 2 à 3% des ados. Là, je pense CMPP, hôpital et tout ça. Hein. Je ne parle pas des soins chez un psychologue. Je n'ai pas de chiffres là-dessus. Quelques chiffres noirs, c'est autour des interruptions volontaires de grossesse. Donc ça, c'est des chiffres. On a pas mal progressé. Enfin, c'est des chiffres qui ont diminué ces dernières années. Hein. Mais on est encore à 1,5% à peu près des jeunes filles qui vont bah avoir des pratiques sexuelles qui sont traumatisantes en fait. D'où l'importance aussi dans le maillage de s'intéresser en tant que parent, bah par exemple au planning familial, enfin au centre de planification familiale, faire que notre ado il puisse à un moment donné aller chercher des réponses là et être écouté chez ses professionnels. Et le chiffre noir, c'est celui du suicide. Alors là, j'ai pris des chiffres un petit peu médians, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les filles sont plus fragiles et plus sensibles au mal-être à l'adolescence, et elles vont plus souvent avoir des idées suicidaires, et elles vont faire plus de tentatives. Mais c'est les garçons qui décèdent le plus du suicide. Alors ça, dans la région Bretagne, on a aujourd'hui des réseaux de prévention de la souffrance psychique, des prises en charge. Je vais vous montrer deux ou trois chiffres. On a fait chuter quand même la mortalité, hein, mais ça reste quand même une préoccupation pour la communauté adulte par rapport à ces ados. Donc, bon, alors ce qu'il faut retenir, c'est sur ce grand panel, donc vous voyez, c'est vraiment le grand écart, parce que les ados vont super bien, mais on en a une partie qui ne va pas bien. Hein. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les enquêtes, et c'est là où c'est compliqué, pour l'adulte, c'est qu'ils veulent des oreilles. L'ado veut des oreilles. Et ceux qui ont plus d'oreilles autour d'eux, donc qui ont plus d'échanges réguliers avec leur entourage adulte, ils sont en meilleure santé. Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas d'un parent qui les prend pour un enfant. Parce que justement, ce n'est plus des enfants. Hein, donc ils veulent un parent qui ne sait pas tout à leur place, qui va être capable d'écouter, d'accompagner. Hein, donc il faut que le parent reste présent, mais il ne faut pas qu'il essaie toujours d'avoir le dernier mot. Donc ça veut dire que c'est deux formes de parentalité qui sont différentes. Quand je suis parent d'un enfant, je terminerai là-dessus tout à l'heure. Eh bien, ma parole, c'est l'évangile, quoi. L'enfant, il va toujours écouter ce que dit maman, surtout maman, et papa aussi un peu. Hein. Donc en tant qu'enfant, bah, c'est le parent qui a toujours raison. Mais quand le gamin, il grandit, il devient ado, alors là, il n'a plus du tout envie de donner raison à ses parents, quoi. Donc c'est une deuxième forme de parentalité. On doit pouvoir mettre de la distance, laisser le gamin réfléchir par lui-même, mais toujours rester présent et écouter. Et ça, c'est une grande difficulté que les ados ont en France. Ils ont besoin d'oreilles et ils ne les trouvent pas forcément. Et vous rajoutez à ça le travail, la mobilité et les écrans. En fait, on a des parents qui sont peut-être moins disponibles aujourd'hui. Donc après, les questions qu'on peut se poser, c'est le repas, c'est les temps partagés, les séjours, et puis ralentir un petit peu, quoi. Et ça, ce n'est pas une question de porte-monnaie. Parce que vous avez des familles qui sont aisées, mais qui sont totalement indisponibles pour leurs enfants. Et comme on a tous des projets de vacances, de voyages, de machin, ben on court tout le temps. Hein? Or, les ados, ils ont besoin de se poser, d'avoir des oreilles, quoi. Donc la question de la temporalité, elle est importante. Et puis, être un parent d'ado, ce n'est pas être un parent d'enfant. Je reviendrai là-dessus. Et souvent, nous, on pense en tant qu'adultes qu'ils ne veulent pas trop nous entendre se pencher sur leurs problèmes. Mais ce n'est pas ça du tout. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, c'est une autre enquête aussi que je mentionne. C'est 15 000 ados interrogés entre 13 et 18 ans en France. C'est pareil, on peut accéder, c'est des données publiques, ça, hein, c'est une enquête de l'INSERM. Et ce qui est frappant, vous voyez, c'est la part des jeunes qui ont confiance en l'avenir. Donc c'est la part des optimistes. En fait, on est dans une société d'abondance, mais chez nous, c'est la crise. Vous savez qu'en France, c'est la crise. Hein, dans les médias, on relaye ça tout le temps. Et donc, en fait, on est très pessimiste. Les Français sont plus pessimistes que les Irakiens. Et ça déteint sur nos enfants. Et vous voyez, à 13 ans, il y a encore 65%, donc les deux tiers des garçons qui sont optimistes par rapport à l'avenir. Et quand ils arrivent à 18 ans, c'est plus que 1 sur 2. Et chez les filles, c'est 2 filles sur 3 qui sont pessimistes par rapport à l'avenir. Donc là, le message que je passe souvent, c'est l'effet Obama. Hein, Obama, il avait été élu à l'époque sur « Yes, we can ». Oui, on peut y arriver. Donc c'est l'optimisme. Et notre rôle de parent... On va revenir un petit peu sur les questions d'estime de soi. Ce n'est pas de leur mentir sur leur capacité et tout, mais c'est quand même d'être optimiste et d'ouvrir des possibles. C'est le rôle du politique dans la cité et c'est le rôle du parent à la maison. Ouvrir, avoir confiance. Et ça, c'est un petit peu une tragédie en France, c'est ce pessimisme ambiant, quoi. Alors ça, je vais peut-être passer parce que... Alors, c'est des enquêtes locales de l'Observatoire de la Santé. Bon, en gros, sur les gros soucis qu'on peut avoir avec des ados, en fait, il y en a trois. Hein. C'est les consommations de produits psychoactifs. Et ça, on est très touché en Bretagne là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Les accidents de la route, c'est toujours la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé. Sur tous ces sujets-là, on a progressé. Hein. Vous imaginez, sur les routes, on était à combien, 15 000 morts dans les années 70. Aujourd'hui, on est à autour de 3 000 morts. Hein, sur tous ces sujets-là, on a divisé la mortalité. Hein, mais n'empêche que chez les ados et chez les jeunes adultes, la question de la route, ça reste un danger et ça reste la première cause de mortalité. Donc il n'y a pas un territoire où on n'est pas concerné par des accidents de la route, des accidents mortels. Et le plus souvent, hein, chez les jeunes, c'est la nuit... vendredi soir ou samedi soir. Et puis, troisième truc, hein, donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, ce qui pose question en matière de santé des ados, c'est la souffrance psychique, hein, qui est un phénomène un petit peu montant, quoi. Alors là, j'ai pris des chiffres, c'est des chiffres de Marie Choquet, donc c'est des années entre les années 95 en clair et puis 2014 en foncé. Donc, c'est des taux de mortalité. Donc, vous avez vu, les accidents de transport, ça reste toujours... Ici, on a les garçons et ici, on a les jeunes filles. Donc, vous voyez, les accidents... Enfin, les garçons sont 4 fois plus concernés par les accidents de la route que les jeunes filles. Hein, et c'est des chiffres qui ont fortement diminué. Mais ça reste toujours le premier danger. Deuxième chiffre, c'est celui du suicide. Alors là, vous voyez, la mortalité, elle a été quasiment divisée par 2. Donc ça veut dire une chose qui est très importante, c'est quand on se préoccupe d'un phénomène, quand l'action publique s'organise pour lutter contre ces soucis, eh bien ça produit des résultats. Et on a de bons résultats, alors là c'est triste de parler du suicide et dire qu'on a des bons résultats, mais n'empêche on divise par 2 la mortalité. Sur les routes on l'a divisé par 4. Et sur beaucoup de sujets, on va parler tout à l'heure du tabac, de l'alcool, on diminue aussi ces dommages-là. Mais ça reste quand même... des points de vigilance pour le parent. Donc, chez les filles, on a aussi divisé par 2 le chiffre du suicide. Bon, après, on a troisième cause de mortalité, c'est les accidents, les autres accidents. Et puis ensuite, c'est les cancers, les tumeurs. Hein, c'est des petits taux pour 100 000 personnes, mais ça existe aussi. Or, je ne casse pas trop l'ambiance, ça va ? Bon, ça, je vais passer, mais c'est juste pour voir que du côté des filles, on a quand même 2 fois plus d'idées suicidaires. Comme je vous disais tout à l'heure, ça reste la question de la fragilité à l'adolescence des jeunes filles, c'est une vraie question. Alors, je dis juste un petit mot pour terminer là-dessus, c'est que, en fait, la grande différence qu'on peut faire entre les gars et les filles, c'est que les filles sont plus connectées à leur intériorité. Et on peut dire peut-être les femmes aussi, mais moi, je suis plus spécialisé sur les adolescents. Ce qu'on dit en général, c'est que les filles vont toujours trouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Elles vont plus facilement se connecter à leurs émotions, à leurs sentiments. Et donc, elles vont plus déclarer de souffrances psychiques. Les garçons, eux, ils vont être dans l'agir. Et donc, ils s'intéressent pas à leur vécu intérieur, ils vont être plutôt dans l'agir. Et plus un gamin va mal, un garçon, plus il agit. C'est par l'acte qu'il va oublier, entre guillemets, ses soucis. Alors c'est pour ça qu'il a plus d'accidents aussi, c'est pour ça que pour ceux qui sont suicidaires, ben, l'acte il va être beaucoup plus fort. Mais globalement, le garçon oublie ce qu'il a à l'intérieur, et puis il devient un chevalier, il est dans l'acte. Alors que les jeunes filles, elles, vont plus essayer de trouver l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça fait que c'est des cerveaux très différents, et quand on a un garçon et une fille à la maison, ben, ça ne fonctionne pas de la même manière, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire des remarques ou poser des questions sur ces chiffres. C'est la partie chiffres, là. Je pense que je vous ai endormi, là. Alors, j'avance pour parler un petit peu produit. Et après, on va rentrer un petit peu plus dans le cerveau des adolescents. Alors, produit. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que en Bretagne, on est pas mal concerné par les consommations d'alcool des jeunes. Mais globalement, en France et en Bretagne, d'abord, ce n'est pas les jeunes qui boivent le plus. C'est plutôt dans nos générations où on boit le plus. Là, c'est les 29, 50 ans. On boit plus souvent, on boit plus. Ce n'est pas les jeunes qui boivent le plus. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre consommation d'alcool, elle a été divisée par deux dans tous les pays de l'hémisphère nord. Vous voyez l'équivalent dans les années. Donc là, on est en 61, à gauche, on buvait l'équivalent de 26 litres d'équivalent alcool pur par habitant. 26 litres d'alcool par an. Équivalent alcool pur. On est passé à 12 litres. C'est encore beaucoup, 12 litres. Mais on a divisé par deux. Et ce qui a été divisé par deux, vous voyez, c'est le vin. La consommation de vin. Et donc, ce qu'on dit en alcoologie, c'est que le statut, c'est écrit même, le statut de l'alcool a changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un alcool aliment à un alcool psychotrope. Psychotrope, ça veut dire que ça fait bouger la tête, quoi. Donc, en fait, pendant très longtemps, on buvait du vin ou d'autres alcools en mangeant. Ça faisait partie du repas. Et quand on faisait ça, on partageait l'alimentation, on partageait l'alcool, on ne voulait pas être bourré, quoi. On essayait, enfin, on se maîtrisait. Et le fait d'être à table, de parler, de prendre le temps, on se maîtrisait. L'objectif, ce n'était pas d'être bourré, c'était partager un moment et manger. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus ce savoir-là. Donc, ce qui va les intéresser, ce n'est pas de prendre le temps, de bavarder pendant des heures et tout, c'est d'utiliser l'alcool pour les faits, quoi. Et comme il y a la pression de l'école, la pression des notes, les petits soucis de l'adolescence ou les gros soucis de l'adolescence, bah, l'alcool va être un très bon anxiolytique parce qu'on peut l'avoir quasiment gratuitement presque partout ou alors on peut l'acheter à pas très cher. Quand on consomme de l'alcool, bah, on n'est pas malade, hein, on est un peu comme les autres. On a hérité ça de la culture de nos parents. Donc le statut de l'alcool a changé. Ils boivent moins que les autres générations, mais ils boivent plus en moins d'occasions, quoi. Par contre, quand ils boivent, ils vont consommer ça pour les faits. Donc c'est voilà, il y a une évolution autour du produit. Bon, alors là, c'est sur les chiffres à 17 ans. Bon, vous voyez, globalement, donc on va dire, on va s'intéresser à gauche, c'est l'expérimentation. Donc, est-ce que tu as déjà consommé dans ta vie? Donc, si on prend l'alcool, vous voyez, 95%, bon, on a baissé de 10 points. Donc la part des jeunes à 17 ans qui ont déjà essayé l'alcool. Donc dans nos régions, on est presque à 100% de jeunes qui ont expérimenté l'alcool. Mais ça a diminué quand même. La courbe en vert, c'est le tabac. Donc à 17 ans, il y avait 78%, mettons 80% des gamins qui avaient déjà fumé du tabac. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc ça a diminué aussi. On a quasiment perdu 20 points là. Le cannabis, on était à 50% dans les années 2000. En 2017, on est à 40%. On a perdu 10 points. Donc vous voyez que toutes les... Alors, il y a plusieurs phénomènes, hein, mais en gros, les politiques de prévention, le fait que les parents se mobilisent, le fait que les pouvoirs publics se mobilisent, il y a plein d'associations qui font de la prévention, eh bien, ça produit des résultats. Hein. Ici, c'est ceux qui consomment régulièrement. Donc c'est plus intéressant pour nous. Le tabac, vous voyez, ils étaient 38%, mettons 40% à fumer du tabac tous les jours. Aujourd'hui, on est à 25%. Et ça, c'est le seul produit pour lequel les filles consomment plus que les garçons. Donc le tabac, c'est un truc de filles. Enfin, les filles consomment plus que les garçons. Hein. Ça a largement diminué. Mais aujourd'hui, c'est un bon indicateur d'un gamin qui ne va pas bien. Parce que dans les statistiques, c'est corrélé. Un petit peu d'ennui à l'école, un peu d'absentéisme, un petit peu de mal-être dans sa tête et tout. Donc ce que dit Marie Choquet, qui est une des spécialistes de l'épidémiologie des ados, elle dit un gamin qui fume tous les jours, bah, c'est un signe qu'il ne va pas très très bien. Hein, donc c'est 25% des ados ici. Bon, ça a largement diminué, mais il y a encore du travail à faire. Alors après, sur les consommations régulières d'alcool, ça veut dire j'ai consommé 10 fois dans le mois. Vous voyez, on est à peu près à 10% des gamins. Et ça a aussi diminué. Après, ce qu'on va voir, c'est que ce qui se passe, c'est que les filles se rapprochent un petit peu des garçons. Enfin, l'écart entre les filles et les garçons est de moins en moins important. Il y a toujours un écart, hein, mais il est de moins en moins important. Donc il y a un phénomène dans notre société, on va dire, si on parle des normes de genre, les normes traditionnelles, c'est monsieur est fort, il protège madame. Et madame, il ne faut pas trop qu'elle boive de l'alcool, parce qu'elle est plus fragile, elle va vomir, elle va pleurer. Ça, c'est la norme traditionnelle. On a à peu près la moitié des gamins qui sont là-dedans. Des jeunes filles qui vous disent, bah non, une fille qui boit, c'est pas bien, c'est pas, je ne suis pas une traînée. La moitié des jeunes sont là-dedans. Et une autre moitié, c'est garçon-fille, même combat. Ben non, moi je suis une fille, je bois comme les garçons, donc ça c'est des normes égalitaires. Eh bien, dans ces nouvelles normes égalitaires, qu'on ne peut que promouvoir, parce que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et n'empêche, les filles sont plus fragiles et plus sujettes à des alcoolisations. Et derrière les alcoolisations, il peut y avoir des accidents de parcours au niveau de la sexualité. Hein, donc on avait fait quelques enquêtes, on était à autour de 10-15% des jeunes filles qui avaient subi ou regrettaient des relations sexuelles sous alcool. Donc ça, c'est un gros message aussi à passer aux ados, c'est on n'a qu'une première fois. Et faire l'amour, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc si quand on le fait pour la première fois, plutôt le faire dans un contexte favorable et pas quelque chose de traumatisant. Et ça, c'est une petite difficulté aujourd'hui avec ces filles qui sont dans des normes un petit peu égalitaires, et elles ont bien raison, mais elles sont un petit peu plus vulnérables au niveau de l'alcoolisation et puis des accidents au niveau de la sexualité sous alcool. Alors, tous les mythes, les gamins ne consomment pas. Alors après, moi je ne connais pas la situation locale, peut-être que vous avez des chiffres au niveau local, mais au niveau national, les gamins ne consomment pas plus tôt qu'avant. En fait, c'est assez stable. Hein. Les premières relations sexuelles, génitales, ça reste autour de 17 ans. Ça n'a pas tellement bougé ces dernières décennies. Les consommations d'alcool, alors en général, c'est autour de la troisième. Quoi. L'année de troisième. En moyenne, c'est plutôt le passage. Donc première ivresse, premier joint de cannabis. Le tabac, c'est un petit peu plus tôt, c'est autour de 13 ans et demi, ça, on l'a un petit peu, c'est un petit peu plus tard. Ils fument leur première cigarette un petit peu plus tard qu'avant. Hein, mais ça, ce n'est pas des choses qui ont changé. Alors, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la santé. C'est plus je consomme tard dans ma vie de l'alcool, du tabac ou du cannabis, moins je serai à risque. Plus je consomme tôt de l'alcool, du cannabis, plus je risque d'avoir des comportements pathogènes avec les produits. Donc vraiment, la question de la première fois que ma fille ira à une soirée et dormira sur place, première fois que ma fille prendra une cuite, ou mon fils, hein, eh ben, il vaut mieux que je retarde le plus possible la première fois. C'est quasiment mathématique, quoi. Donc entre un gamin qui va prendre ses premières ivresses à 12 ans, ben, ça arrive, parce que c'est des moyennes. Il y en a plein qui sont sous la moyenne et plein qui sont au-dessus de la moyenne. Hein. Mais entre un gamin, j'en reparlerai tout à l'heure, qui va commencer à prendre des produits à 12 ans et quelqu'un qui va commencer à prendre des produits à 15-16 ans, bah, l'écart est important, quoi. Donc nous, il faut qu'on travaille sur, on va dire, les seuils d'âge. À quel âge tu ? Donc ça, c'est le gros débat à avoir dans la famille. À quel âge tu iras devant en voiture ? Bah, je crois que c'est 10 ans, c'est fixé par la loi. Bon, on est sauvé. Après, à quel âge tu iras dormir soirée pyjama chez tes petites copines ? À quel âge tu iras une teuf et tu dormiras sur place ? Et après, il y a l'entre-deux, c'est-à-dire tu veux aller à la teuf, ok, bah, je viens te chercher. À 2 heures. Oh, t'es con hein ! Non, mais parce que je fais attention à toi, parce que je t'aime. Hein, donc ça, la question de l'âge, la première fois, les seuils d'âge, c'est quelque chose qui est important. Alors, ces seuils d'âge n'ont pas tellement bougé ces dernières années ou dernières décennies. Hein, donc c'est faux de dire que les gamins, ils se déchirent la tête à 10 ans, à 11 ans. C'est faux, mais par contre, il y en a qui. Ça, c'est vrai. Et nous, il faut absolument qu'on reporte le plus tard possible les premières fois. Alors, des cartes. Vous avez à gauche les cartes donc, sur les usages de différents produits. Donc avec un code couleur, hein, quand on est dans le clair, blanc, neutre, là, on est dans la moyenne française. Quand on est dans l'orange ou dans le rouge, ça veut dire qu'on est au-dessus de la moyenne. Et ici, vous avez l'évolution entre 2014 et 2017. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, vous voyez, en Bretagne, donc, je fume tous les jours du tabac, on est, je crois, à 35 ou 36%, enfin, on est 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont penchés sur le sujet. On n'arrive pas, on a un faisceau d'hypothèses, quoi. Pour moi, l'hypothèse numéro 1, c'est l'offre festive. Il y a une vie de village, on est une société rurale, il y a des cafés, il y a des soirées, il y a des fêtes, il y a des festivals, il y a surtout beaucoup de fêtes, beaucoup de festivals, donc il y a une offre festive. Ça témoigne d'une sociabilité intense, parce que plus les jeunes sortent, plus ils consomment. Donc une des clés d'explication, c'est qu'on a une offre festive importante dans nos sociétés, disons rurales, pour faire simple. Parce que quand vous allez en Île-de-France ou dans la région lilloise, ils consomment moins, ils sortent moins aussi. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre explication, c'est ce qu'on appelle le paradoxe breton. Le paradoxe breton, c'est qu'on est la meilleure académie de France au niveau des notes scolaires. C'est toujours la même question, c'est on leur met la pression au niveau scolaire. Et comme on leur met beaucoup la pression au niveau scolaire, bah, de temps en temps, ils ont besoin de lâcher la soupape, quoi. Donc c'est une compensation en fait, d'une pression scolaire qui serait plus forte en Bretagne. Alors, il y a plein d'autres hypothèses. Il y a des hypothèses aussi sur la transmission de traumatismes intergénérationnels liés à la Première Guerre mondiale, parce que vous savez que la mort a été très présente dans nos populations lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est Jean-Yves Broudic, hein, qui est un psychanalyste et qui avait fait des publications sur ces questions-là en Bretagne. Il dit, voilà, on a eu une prégnance de la mort en Bretagne, donc ça s'est transmis un peu de génération en génération. Vous voyez, il y a pas mal d'hypothèses. Et ce qui est sûr, c'est que dans tous les chiffres, on est au-dessus des moyennes nationales. Et par contre, on a perdu quand même moins 7 points ici, hein, sur la part du tabac tous les jours, c'est moins 7 points en 3 ans. Hein, pour vous dire que quand on s'intéresse à des sujets, on a des résultats. Deuxième carte, c'est sur les alcoolisations. Donc, on est à peu près 10 points au-dessus de la moyenne aussi. Donc là, c'est au moins 3 ivresses dans le mois. Donc, vous voyez, c'est un quart des jeunes à 17 ans qui va avoir plusieurs ivresses dans le mois. C'est-à-dire que les 3/4 n'auront pas plusieurs ivresses dans le mois. Le quart, lui, donc on est dans toute la région ouest. Donc, c'est aussi le facteur producteur d'alcool, peut-être. Et on a fait moins 15 en quelques années. expérimentation du cannabis. On est 5 points au-dessus de la moyenne, donc c'est 45% des ados qui a déjà essayé le cannabis à 17 ans. Pareil, moins 8 points en quelques années. Alors là, c'est l'usage régulier du cannabis, donc le fait de fumer plusieurs fois, alors je crois que ça c'est 10 fois par mois du cannabis, bon on est dans la moyenne nationale, c'est à peu près, alors souvent sur ces chiffres-là, moi je dis c'est autour de 10-15% des jeunes qui sont dans des pratiques plus à risque, fumer plusieurs fois dans le mois, avoir plusieurs ivresses dans le mois, donc là on est dans la moyenne nationale et aussi ça a diminué ces dernières années. Hein, et sur les autres produits, parce que c'est important aussi peut-être de mettre quelques mots sur donc d'autres drogues illicites. Donc ça va être les champignons hallucinogènes qui poussent dans les champs, ici, pas loin d'ici. Les extasies pendant les soirées musicales, beaucoup. Hein. En ville, la cocaïne. Donc ça, on est à peu près à 10% de la génération. Donc on a souvent un score autour de 10% de gamins qui sont plus sujets à ces consommations, plus fragiles de ce côté-là. Et bien sûr, une question après qu'on va se poser, c'est la place des copains ou la place des parents hein, par rapport à ces consommations. Et c'est vrai que les relations sociales, les relations amicales, pour l'expérimentation des produits, ça va être quelque chose d'important. Mais ce qui est sécurisant, c'est que donc, quand les jeunes expérimentent les produits, c'est lié à leurs relations amicales. Par contre, sur comment ils vont faire attention à eux, sur le long terme, qu'est-ce qui est le plus important comme influence d'après vous? Les parents. Hein, donc toutes les enquêtes. Bon, alors, dans la soirée, là, je vais prendre un truc et tout, c'est mes copains qui m'incitent, mais sur le fait que je fasse attention à moi et aux conséquences de mes actes sur le moyen ou long terme, ce qu'on appelle la philosophie de vie, ben, c'est tout ce que les parents ont transmis depuis toujours. Donc ça veut dire qu'en fait, ils absorbent l'amour qu'on leur porte, et puis le fait de faire attention à eux. Donc répéter tous les week-ends, tous les jours, fais attention à toi, fais attention à toi, bah, le gamin, c'est ça qui va l'habiter ensuite. Hein, même si les fréquentations et les mauvaises fréquentations vont parfois le conduire à passer à l'acte. Et dernier point, avant de passer au cerveau des adolescents, là, vous voyez ce qui... Alors, moins d'alcool, mais... Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire l'écart entre les garçons et les filles. Donc en 2002, sur les questions d'alcool, alors ça c'est quelque chose qui avait augmenté dans les années 2000, puis qui a redescendu après. Hein. Mais globalement, les garçons consommaient trois fois plus que les filles et avaient trois fois plus d'ivresse que les filles au début des années 2000. Et on est à 2,5 en 2011, ça veut dire les filles se rapprochent un petit peu. Alors c'est toujours les garçons qui sont devant. Hein, mais comme je vous disais, il y a des normes de genre un peu égalitaires aujourd'hui, et donc les filles qui rattrapent un petit peu les garçons, même s'il y a toujours un écart entre les deux groupes. Alors on peut parler, si vous voulez, peut-être des consommations de produits psychoactifs ou des questions de santé en général, des accidents ou autres, avant de rentrer dans la mécanique de l'adolescence. J'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rassurent ou des choses qui vous inquiètent? Qui est plus inquiet aujourd'hui que tout à l'heure avant de venir?
Ne fume pas la cigarette ou le plus tard possible. C'est un peu comment avoir cette écoute bienveillante dont vous parliez au tout début, tout en mettant des limites qui sont quand même clairement très très importantes. Oh. Moi c'est plus, je suis encore un peu dans ces questionnements-là et les chiffres ne m'étonnent pas. Mais c'est plus cette posture-là, comment...
Voilà. C'est ce qui vient après.
Bon, ben voilà.
Ah ouais. Mais oui, c'est ça, c'est... Ouais. Rester D'abord, sortir de l'illusion que c'est sa copine qui fume. Ben non, mais on en est tous là, quoi. Oui, les autres, mais pas le mien. Mais puisque tout le monde se dit ça, ça veut dire que le mien est sûrement dedans aussi. Alors après, je suis d'accord avec vous, on met des réserves, on se protège et tout, mais globalement, faut sortir de l'illusion que c'est surtout les autres et pas le mien, parce qu'en général, ils sont ensemble. Et, bon. Mais après, sur le reste, je suis d'accord avec vous, c'est ça le sujet, c'est comment fixer les règles et garder la vigilance tout en étant à l'écoute, et c'est cet équilibre-là qu'on va voir dans mon schéma un petit peu trash tout à l'heure, mais je fais un petit peu de teasing. Est-ce que vous voulez partager un... Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'on vous devez faire ça pour parler d'adolescence alors que je vous ai imaginé plutôt que ce serait l'adolescence dans sa généralité et du coup on aurait mélangé les garçons et les filles.
Ouais.
Est-ce que vous avez c'est séparé à chaque fois peut-être ou si c'est parce que c'est moi qui ai un esprit
je dirais pas ça.
Pourquoi il y a des petites différences comme ça quoi.
Bah disons que là-dessus, jusqu'à il y a 20 ans, on parlait des ados, en général. Donc en fait, on parlait des garçons. Et avec la montée, c'est ce qu'on appelle les études de genre, quoi. Aujourd'hui, si vous faites un travail en sociologie, que vous ne parlez pas des filles ou des femmes, on va vous dire, mais vous... En fait, on va dire on était gender blind, c'est-à-dire on était aveugle aux différences entre les hommes et les femmes. Et donc pendant très longtemps... Les chercheurs faisaient des études et ils parlaient que des mecs, les pratiques sportives, et même l'action publique, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, sur l'action éducative, l'action publique, par exemple, l'offre d'activité l'été, l'offre de séjour l'été. Et bien, en fin de compte, on investissait pour les garçons, pour prévenir la délinquance. Une des clés de la montée en charge du loisir pour les ados et des actions éducatives pour les ados, c'était pour lutter contre la violence des garçons, quoi. Donc pendant longtemps, en fait, on ne voyait pas les filles. On ne parlait que des garçons. Et aujourd'hui, on est un petit peu obligé. Et en plus, il y a tellement de différences que c'est... Mais c'est pas grave, c'est bien de parler aussi des filles. C'est bien de parler aussi des filles. Parce que ce serait dommage de pas les voir, de ne pas les prendre en compte, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette tendance-là, quoi. Et quelles que soient les données, si vous traitez des données sans les traiter par genre, vous passez pour un barbu, quoi. Vous passez comme un intégriste qui s'intéresse qu'aux hommes, quoi. Hein, donc on a plus cette sensibilité-là aujourd'hui. Et ce qui nous amène aussi à être une société qui est peut-être plus empathique et plus à l'écoute, parce qu'on s'intéresse plus, par exemple, ces questions de souffrance psychique. On va parler tout à l'heure des points accueil écoute jeunes, des maisons des adolescents, et tout ça, c'est des choses qui datent des années 2000. Avant, on était beaucoup plus comment on va les occuper, faire du foot, et puis prévenir la délinquance. Aujourd'hui, on va s'intéresser aussi à ce qu'il y a à l'intérieur des ados. Et c'est grâce aux filles, ça, je pense. Voilà ce que je vous dirais. Est-ce que vous avez une autre remarque? On a le droit de discuter, de ne pas être d'accord, au contraire, hein, c'est ça qui est important. Je crois que oui. Je suis pas sorti ces chiffres-là. Après, c'est vraiment de la psychologie et de l'épidémiologie, mais en fait, souvent, les jeunes sont quand même... les deuxièmes, troisièmes sont souvent initiés par le grand frère, quoi. Hein, donc le premier, l'aîné, il va découvrir les choses un petit peu plus tard, en fait. Il est un peu plus surveillé et tout. Mais souvent, sans doute qu'on relâche un petit peu l'attention sur les deuxièmes, les troisièmes. Et puis, le grand frère transmet beaucoup de choses. Donc en fait, les quelques études que j'ai en mémoire, c'est que ouais, les deuxièmes, troisièmes, ils découvrent les choses plus vite. Et le grand frère, soit les copains, soit le grand frère qui initie. Hein, mais quand on parle des premières cuites autour de la troisième ou première cigarette et tout, bah, ceux qui ont un grand frère, ça peut être lui aussi qui initie. Ouais. Donc je pense que sans doute qu'on est plus vigilant sur l'aîné, le premier. Et par contre, après, on relâche un peu, on a plus confiance. Et c'est vrai d'autres choses, hein, c'est vrai aussi de la parole, du vélo et tout. Hein, ceux qui suivent derrière, ils apprennent les choses plus vite. Hein. Donc, moralité, faut pas trop relâcher peut-être pour les deuxièmes, les troisièmes. Alors du coup, je vous parle un peu bon, d'abord des adolescents, puis de la dimension psychosociale des adolescents, et puis après le schéma trash là. Je sens que vous l'attendez, celui-là. En fait, il a rien de trash, mais alors bon, d'abord, on va essayer. Alors quelques définitions de l'adolescence. Maintenant, j'arrête avec les chiffres. Hein. C'est la définition de l'adolescence. Bah, c'est celle-là la définition la plus scientifique. Vous voyez, c'est ni enfant ni adulte. Alors si on se disait ça à chaque fois. C'est plus un bébé. C'est plus moi qui ai raison. C'est lui qui se construit sa pensée, son libre arbitre. Donc je ne le pilote pas. Il doit apprendre à se piloter. C'est ça. Il n'est plus enfant. Mais il n'est pas encore adulte. C'est-à-dire, il ne sait pas encore se piloter. Donc c'est tout ce paradoxe-là, quoi. Alors le parent est très fort avec les enfants, comme je disais tout à l'heure. Je vais vous montrer ça avec un petit schéma avec des patates. J'aime bien les patates. Trois patates. Alors celui-là, ça fait pas mal d'années qu'il m'anime. Donc les trois patates, c'est l'enfance, l'adolescence et puis l'entrée dans l'âge adulte. Et c'est un schéma un petit peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en bas du schéma, là, c'est ce qu'il y a dans la vraie vie, la vie concrète avec des odeurs, des relations, tout ça. Et ce qu'il y a en haut du schéma, c'est ce que j'ai dans ma tête, dans mon cerveau. Donc la première patate, là, je suis collé. En tant qu'enfant, dans le monde de l'autre. On dit que c'est un moment d'imprégnation. En fait, je suis dans le mimétisme. Je n'ai aucun recul sur ce que me transmettent mes parents. J'adhère. Donc, maman, c'est la plus belle. Elle a toujours raison. Elle fait très bien à manger. La maîtresse aussi a toujours raison. Toujours. Et de toute façon, elle a dit que la maîtresse. Papa, il a la plus belle voiture. Et les week-ends chez Pépé Mémé, c'est génial. Donc nous, on dit c'est un moment d'imprégnation. Je m'imprègne. Donc là, ce qu'on va transmettre à notre enfant, bah, c'est ce qu'on est, nous. C'est notre culture, c'est nos façons d'être, c'est nos façons d'aimer, c'est le langage, c'est le toucher. Il va boire tout ça. Il est comme, il s'abreuve de ce que je suis. Et puis arrive l'entrée en sixième. Alors moi, je dis les enfants, jusqu'à la sixième, ils sont encore enfants. La maîtresse a encore raison, là, un petit peu moins, mais maman, c'est toujours la plus belle, elle fait très bien à manger. Et papa, qu'est-ce qu'il est intelligent, il a une belle voiture. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe, on va dire, on appelle ça le décalage pubertaire. En fait, ce qui se passe, pour essayer de le résumer, c'est bon, l'entrée dans la puberté. Donc ça, on peut dire, Alex, c'est autour de 12-13 ans, autour de la cinquième, quoi. Et là, on pourrait l'illustrer, ce que disent les psychologues, en fait, c'est que il y a deux choses qui se séparent. Il y a le corps et l'esprit qui se séparent. C'est ça la puberté. Parce qu'en fait, quand vous êtes enfant, vous maîtrisez votre corps. Ce que vous voulez faire, ce que vous avez dans votre tête, c'est ce qui va se passer dans vos gestes et tout. Mais à la puberté, il y a des poils qui poussent, il y a des fluides qui coulent, il y a le corps qui se transforme. Et là, le gamin dit, mais mon corps, il y a plein de boutons en plus pour certains. Il passe des heures devant la glace. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent dans leur tête que leur corps évolue tout seul. Et c'est ça le décalage pubertaire. Et en fait, la puberté, enfin l'adolescence, c'est une mise à distance de la réalité. Et vraiment, le fait que ces ados aient besoin de passer du temps devant les miroirs pour apprivoiser ce bouton, apprivoiser ce corps qui se transforme, quand même, quand vous prenez 10 kilos dans l'année ou 10 centimètres dans l'année, ben, pendant 2-3 ans des fois, ils ont un corps qui est gauche, qui se transforme, et eux, dans leur tête, ils sont perdus. Et donc ça, c'est la deuxième patate. C'est-à-dire qu'ils prennent du recul sur la situation et sur la réalité. Et ils disent, en fin de compte, la maîtresse, elle n'avait pas toujours raison. J'ai une ado qui me dit ça un jour. La maîtresse, elle m'avait dit qu'il fallait aller à la ligne après chaque point. Et pendant des années, après chaque point, j'allais à la ligne. J'arrive en cinquième, je dis, mais c'était n'importe quoi. J'avais pas besoin d'aller à la ligne à chaque point. Et ma mère, c'est pas la plus belle. La plus belle, c'est quand même la petite Héloïse là-bas. Et mon père, sa voiture, elle est pourrie. Et les week-ends chez Pépé Mémé, je ne veux plus y aller parce qu'il n'y a pas de réseau. Et je veux être avec mes copains. Donc il y a un moment où, bon, voilà, ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que l'enfant, malgré lui, il se sépare de l'enfance. Et il est à un moment donné, c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans le schéma, il est à distance, un petit peu perdu. C'est ce que j'appelle la singularisation. C'est-à-dire il se construit sa personne singulière. Il se construit son moi à lui. Il pense plus comme vous. Il commence à penser comme lui-même. Il construit sa subjectivité, son individualité, son libre arbitre. Et puis après, la troisième. Donc là, il est parfois très éloigné. Donc il est un petit peu gauche. Il a besoin de beaucoup dormir. Hein. Les médecins, on dit que c'est 9 heures de sommeil hein, pour un ado. Et ils dorment chez nous, en moyenne en France, on est autour de 7h45. C'est-à-dire qu'il leur manque à peu près une heure de sommeil par nuit. Donc ils sont fatigués, vous les voyez, ils polymérisent avec le canapé, ils polymérisent avec la couette. Mais parce qu'il y a toute cette transformation du corps, et puis aussi la tête, l'envie de vivre qui s'interroge et tout. Et les filles sont plus sensibles à ça. Donc c'est ma singularité, je me cherche. Qui je suis? Est-ce que je suis beau? Est-ce que la petite Héloïse, elle va m'aimer? Et pourquoi j'ai tous ces boutons, tous ces trucs? On m'avait dit, j'avais plein de certitudes, tout ça, je le déconstruis, et en fait, je me projette dans la vie, tout est possible. C'est ça l'adolescence, tout est possible. Et puis petit à petit, la troisième patate, c'est quand je rentre dans l'âge adulte, moi j'appelle ça la politisation, c'est-à-dire je me réinvestis dans la cité. Il y a un moment où je m'étais un petit peu éloigné, j'étais parti dans ma tête, et puis quand je vais grandir, je vais m'investir avec les autres, je vais réussir à m'associer avec les autres, parce que je me suis un petit peu trouvé, vous voyez. Hein, mais vous comprenez un petit peu cette deuxième patate, là, que le gamin, il se cherche. Il ne veut plus être un enfant. Et il a le cerveau qui fait de l'auto-allumage. Non, non, je ne veux pas ça, non, non, ils sont moches, non, non, c'est pas bon. J'ai plein d'exemples comme ça. Vous allez acheter un pantalon avec votre fille. Quand vous avez essayé 10 pantalons et que la fille vous dit « Mais non, je veux un pantalon, mais c'est pas vraiment un pantalon, c'est entre la jupe culotte et le pantalon. » Et pareil avec le gars, vous essayez, mais c'est des parents qui racontent ça, vous essayez 10 paires de chaussures. Je cherche autre chose. C'est ça l'être humain, en fait. Hein. Ce que je vous présente là, en fait, c'est... En fait, le propre de l'homme, c'est de contester le réel pour chercher autre chose. Donc l'ado, lui, il découvre ça. Ce qu'il y a là, ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Je veux autre chose. Donc c'est ça qu'on fait en tant qu'être humain. On conteste la réalité pour transformer le monde. Donc l'ado, c'est ça qu'il découvre. Hein, donc il y a un moment, la première patate, où ils sont collés à ce qu'on dit, on est des dieux, c'est génial, c'est facile. Après, ils nous disent, mais de toute façon, c'est mort, c'est moche, c'est nul, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, mais je ne veux pas ça. Et puis après, ils arrivent à négocier avec la réalité. Mais pendant le moment de l'adolescence, ben, il y a une coupure. Et d'ailleurs, la chambre au début, vous y allez quand vous voulez, la porte reste ouverte, et il y a un moment, puf, la porte elle est fermée, vous commencez à toquer à la porte et tout, vous allez respecter plus l'intimité. Mais sauf qu'il ne sait pas encore faire. En gros, il vous dit « je suis grand », puis vous devez gérer le frigo, le lave-vaisselle, les culottes, les chaussettes, le linge sale, vous devez, hein, parce qu'il ne sait pas encore faire, mais il aimerait bien pouvoir faire. Donc il faut qu'on l'accompagne dans ce mouvement où il se construit lui-même sa réflexion. Il ne faut pas qu'on sache à sa place. Il faut trouver la bonne distance. Donc moi, dans mes travaux, alors on ne voit pas forcément très bien, mais quand on réfléchit donc au fonctionnement du cerveau, je vais faire assez vite, mais en gros, nous et notre système éducatif, il est centré sur le numéro un là-haut, c'est le langage. On mise tout sur les connaissances et sur le langage. « Oh, on va parler, et puis je vais te donner les informations, je vais te donner les informations sur le tabac, sur le shit et tout, puis tu ne vas jamais fumer. » On a une deuxième compétence, je passe, une compétence technique en tant qu'être humain. Et puis surtout, nous, ce qu'on dit depuis, c'est un modèle théorique à bien 30 ans, c'est qu'à l'adolescence, il y a quelque chose qui s'installe, c'est la capacité sociale, la capacité à devenir une personne. Et c'est ça le moment de l'adolescence. Donc il y a deux sujets à l'adolescence. Comment il se construit sa personne en se séparant des parents. Et le deuxième sujet, c'est le bouillonnement émotionnel. Puisqu'il y a la sexualisation qui arrive, le désir, de sexualité, mais aussi de vitesse, de violence, de vertige. Il y a toutes ces émotions qui arrivent et qui vont habiter l'adolescent. Donc les deux sujets, ce n'est pas du tout le programme de mathématiques et tu as eu combien à l'école. Le sujet, c'est comment tu te positionnes par rapport aux autres et comment tu vas faire alliance avec les autres et négocier avec la réalité. Et c'est le moment où on a des ados qui deviennent, par exemple, schizophrènes. Avant, il n'y a pas de... Les psychoses, ça n'existe pas avant l'adolescence quasiment. Les schizophrènes, ça va se déclarer en général autour de 17-19 ans. Hein, parce que c'est une question de distance par rapport à la réalité. Donc l'ado, il est un petit peu barré. Winnicott disait, c'était un psychiatre américain, il disait l'adolescence, c'est une pathologie normale temporaire. Et la pathologie, c'est un déni du réel, une forme de psychose. Ils sont à côté de la plaque, ils sont dans leur univers. Donc, il faut qu'ils trouvent la bonne distance avec la réalité. C'est ce que j'appelle l'accès à la capacité sociale. Et puis, l'autre sujet, ben oui, c'est les émotions, l'émotionnel, quoi. Et aujourd'hui, on a des recherches sur le cerveau, justement. C'est ce que je voulais, pour illustrer un petit peu mon propos. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans la gestion de notre vie, à nous, c'est le cortex préfrontal, ce qui est derrière mon front, là. Donc, ce cortex préfrontal... Il se construit en moyenne à 21 ans chez les êtres humains. Et ce cortex préfrontal, c'est lui qui me permet de faire plusieurs choses. C'est déjà apaiser mes émotions et me projeter dans l'avenir, anticiper les conséquences de mes actes. Donc vous voyez, le cerveau, il se développe par l'arrière d'abord et puis il se termine ici par le cortex préfrontal. Donc c'est à peu près à 21 ans. Que le gamin, il peut anticiper les conséquences de ses actes, se projeter dans l'avenir, définir des stratégies sociales. Avant, qu'est-ce qui est plus important ? Ben, c'est toute la zone émotionnelle, c'est le cerveau émotionnel, c'est les amygdales, c'est les traumatismes, c'est les peurs. En fait, votre ado, il est habité par des émotions qu'ils font vibrer et des peurs. Et c'est ça. Et moi, j'ai 4 enfants, j'ai une de mes filles, elle buguait à l'adolescence. À un moment, dans la conversation, vous n'aviez pas dit le bon truc, vous aviez touché la mauvaise émotion. Ah ben, elle avait le regard noir, là. Et vous ne pouvez plus lui sortir un mot pendant un ou deux jours. Elle avait le cerveau qui buguait. C'est-à-dire que il y a la zone émotionnelle qui est à fleur de peau chez l'adolescent, et ça, c'est une réalité. Et d'où aussi le besoin d'alcool, les produits, expérimenter, s'exciter, mais aussi s'apaiser. Et puis, petit à petit, le cerveau social, donc le cortex préfrontal, il va commencer à marcher. Alors, ce qui est évident, hein, c'est qu'il n'y a aucune réalité comme ça qui est uniquement biologique. C'est-à-dire que plus les parents interagissent avec le gamin, plus il va développer son cerveau social. Plus je lui cogne dessus, je simplifie, hein, plus je lui fais peur, je le menace, je le punis et tout, et plus j'alimente ses peurs, son stress et tout, et moins je fais marcher son cerveau social. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Hein, il y a quelques études là-dessus. Ouais, je reviendrai... Ben non, je vais continuer mon petit déroulé, là. Alors, parce qu'on avait mis dans le titre la question de l'estime de soi. Alors, je vais aborder maintenant, le propos, c'était de dire, il se passe quelque chose à l'adolescence qui est de l'ordre de ma relation sociale, ma relation au monde et de mes émotions. Et donc, ce n'est pas par le programme de mathématiques, est-ce qu'il y a des profs de maths ici ? Non. Sinon, ce n'est pas par le programme scolaire et le bulletin de notes qui vont développer ça. Alors, évidemment, à l'école, ils apprennent plein de relations sociales, bien sûr. Hein. Mais c'est quand même centré, la classe, sur... le cerveau linguistique, quoi. C'est pas ça qui va nous aider pour nos ados. Ce qui peut nous aider, c'est réfléchir justement à la relation sociale, le rapport au monde, et puis la question des émotions, quoi. Ben, en tout cas, il existe moins, oui, parce que justement, le processus, par exemple, vous mettez un message sur un réseau social, mettons Facebook et tout, après vous allez regarder, est-ce que vous êtes liké, quoi ? Donc là, ce phénomène-là, c'est la question de la gratification, c'est toujours les émotions. Oh, il m'aime bien, ça me fait plaisir et tout. Donc effectivement, les réseaux sociaux activent ce cerveau émotionnel. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis populaire? Est-ce que j'ai des likes et tout? Et effectivement, il y a moins de relations sociales. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais après, sauf qu'il n'y a rien d'irrémédiable, et ça dépend justement, et charge à chacun en tant que parent, ou c'est la même chose, je veux dire, dans des accueils de loisirs, vous avez aujourd'hui des jeunes animateurs qui sont aussi sur leur téléphone portable, donc il faut qu'on arrive à gérer pour les adultes l'usage du téléphone et ce qu'on appelle la disponibilité psychique. Mais globalement, il faudrait qu'on augmente le temps d'échange intersubjectif avec l'enfant, mais avec l'adolescent. Et ça, c'est chacun qui peut travailler là-dessus par ce que je vous disais tout à l'heure, temporiser, moins partir peut-être toujours dans la course, prendre le temps de manger, moins travailler, enfin, trouver chacun comme on peut, mais avoir plus de temps d'intersubjectivité. Et après, ce n'est pas qu'une question de quantité, hein, c'est aussi une question de qualité. Hein, parce que vous pouvez avoir, par exemple, des parents qui sont présents souvent, longtemps à la maison, mais qui ne sont pas forcément dans une interaction de qualité avec leur ado. Donc, il y a le quantitatif, mais il y a aussi le qualitatif. Et des fois, si on n'a pas beaucoup de temps, on peut avoir plus de qualité dans la relation. Hein. Donc, il y a les deux trucs qu'on doit... Mais sachant qu'en plus, si vous voulez, l'ado, lui, vous n'allez pas lui dire « Bon, bah, c'est à 19h40 hein, qu'on aura l'échange. » Parce que lui, il est là, il est perdu, là. Et puis, ben, s'il n'y a pas cette qualité de relation et tout, de toute façon, vous allez le voir parce qu'il va faire une connerie, il va avoir un plâtre, deux plâtres. Enfin, les ados qui vont manquer d'interaction de qualité, ben, ça va passer par le corps beaucoup. Donc, ils vont s'abîmer, ils vont un peu se blesser. Et c'est comme ça qu'ils vont vous le dire. Ou ils vont avoir mal au ventre. Il y a un psychiatre à Bordeaux, Xavier Pomereau, dit le nombre, surtout de jeunes filles qui ont mal au ventre aujourd'hui au lycée, c'est des scores énormes. Et comme les instituts parlent de phobie scolaire, alors moi je n'ai rien contre la phobie scolaire, mais est-ce que c'est vraiment une phobie scolaire ou c'est une difficulté dans la relation sociale? En tout cas, il y a beaucoup de gamins qui somatisent aujourd'hui parce que ils n'ont pas peut-être la qualité de relation. Ouais. Vous faites bien. Vous faites bien. Non, moi je vais vite, hein, mais c'est vrai que des fois la question. Moi je suis bénévole dans un centre social, donc je suis pas mal à l'aise pour le dire. Je vois des fois, bah oui, on est obligé voilà, de fixer des règles, mais on doit se fixer à nous-mêmes aussi des règles par rapport à ça, quoi. Et donc ce que je voulais dire, c'est. Oui.
Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, mais. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se travailler en famille, enfin, vous allez certainement y revenir, mais. Au niveau du collectif, et parce qu'il y a des expérimentations qui se font en milieu scolaire sur justement les compétences psychosociales, etc. Est-ce que c'est pas par là, enfin, pour lutter contre les mais exigences oui. Scolaires, quoi, justement, ces notes et tout ça, mais apprendre oui, autre oui. Chose à.
Oui, vous avez raison, ouais, ouais. Mais je veux dire, il faut faire feu de tout bois. Je vais vous présenter très vite les définitions autour des compétences psychosociales et tout, mais vous avez des gens qui ont réfléchi à ça. C'est un modèle écologique, c'est-à-dire c'est des cercles concentriques. Donc si vous faites quelque chose à l'école que à l'école, ben, c'est moins performant que si vous faites quelque chose à l'école et dans le quartier et dans la famille. Hein, donc il faut qu'on marche un peu tous en même temps là-dessus, quoi. Donc il y a l'école, oui, mais si la famille est mobilisée, oui. Et puis il y a la question du temps de loisir. Aujourd'hui, vous savez, alors je ne sais pas ici, hein, mais sur les questions qu'on se pose sur les accueils de loisirs et les séjours vacances d'été, par exemple, c'est mais où sont les plus de 12-13 ans là? C'est-à-dire on arrive à avoir encore des gamins jusqu'à 11 ans, 12 ans, mais à partir de 12 ans, on a une baisse énorme des effectifs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ils font d'autres choses, hein, mais vous voyez, sur le loisir collectif, et vous voyez toutes ces enquêtes, aujourd'hui je cherchais des données là-dessus, parce que demain j'ai une réunion là-dessus en région rennaise, parce qu'ils s'inquiètent tous, ils ont moins d'ados dans les espaces d'accueil. Eh bien vous cherchez des études où on vous parle du temps de loisir organisé, vous ne trouvez pas beaucoup de chiffres. Donc on va demander, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu fais de la musique et tout, mais on n'a pas assez valorisé les accueils de loisirs collectifs. Et quand des enfants vont mal, moi je travaille beaucoup en prévention, en protection de l'enfance avec des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil et tout. C'est là qu'il faut valoriser tous ces espaces d'accueil collectif. Donc oui, je suis d'accord avec vous, le temps scolaire est important. Changer les postures des professionnels du scolaire, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur le temps de loisir et puis avec les familles. Et là, on optimise un petit peu, quoi. Et donc, ce que je voulais dire, justement, c'est que aujourd'hui, on réfléchit pas mal à ces questions, par exemple, d'estime de soi et puis de compétences psychosociales. Donc, l'estime de soi, c'est comment je fais un petit peu l'analyse de qui je suis et quel est mon idéal. Hein, donc, c'est ça, l'estime de soi, c'est le rapport entre ce que je rêve d'être et ce que je suis vraiment. Et donc c'est vraiment une question qui va se poser davantage à l'adolescence, parce que c'est là où je prends de la distance sur moi-même et donc je vais me projeter en même temps, me regarder dans la glace, quoi. Et donc par rapport aux différentes clés, donc là ce qu'on doit travailler, on va revenir un petit peu avec les compétences psychosociales, c'est donc déjà quelque chose qui fait défaut chez nos jeunes, c'est la connaissance de soi. Parce qu'on les projette beaucoup dans les apprentissages scolaires et autres, ou dans l'activité, hein. Mais on ne travaille pas assez la connaissance de soi. Moi, j'interviens en milieu scolaire, on demande à des jeunes, c'est quoi vos qualités, vos compétences? Je vous assure, plus les gamins sont cassés, puis plus ils vous disent, mais non, mais nous, on est nuls, quoi. On n'a pas de compétences. On n'a pas de qualité. Donc notre rôle de parent ou d'éducateur, c'est travailler la connaissance de soi, faire la stratégie des petits pas, montrer qu'il y a des réussites, montrer qu'il y a des petites réussites, qu'il y a des petites compétences, leur permettre d'avoir une meilleure image de qui ils sont, hein. Leur permettre de s'affirmer, et puis aussi les aider à ouvrir des possibles, quoi. Et toujours en ayant des possibles, un idéal, et puis des plans B. Parce que vous avez des jeunes qui montent vers un idéal qui est super et tout, mais peut-être que ce ne sera pas cet idéal-là qui va se réaliser. Donc on doit leur ouvrir des possibles. Et souvent, dans les milieux ruraux, on dit, dans le milieu éducation nationale, on dit oui, ils n'ont pas assez d'ambition, ils n'ont pas assez ouvert de possibles, ils reproduisent un peu des trucs. Bon. Donc, ouvrir des possibles, mais aussi avoir un plan B ou un plan C en disant, ben, oui, si tu n'y arrives pas là, c'est pas grave, tu as encore de la valeur, tu vas peut-être aller ailleurs. Et donc, ça, c'est un des sujets. Et ce que vous disiez, madame, c'est l'histoire des compétences psychosociales. Moi, je crois beaucoup dans cette approche-là. Hein, c'est-à-dire... ne pas être que sur le scolaire, mais s'intéresser donc à ces différentes choses, hein, donc la connaissance de soi, la gestion des émotions, pouvoir mettre des mots sur ces émotions, parler de l'intériorité. Et là, le fait de s'intéresser, par exemple, aux jeunes filles, ça nous amène à aller vers ça. Parce qu'avec des garçons, parler de ces émotions, les garçons, c'est pas trop leur truc à la base. Hein. C'est plus facile de faire ça avec des jeunes filles, par exemple. Donc, travailler sur la communication. Moi, je travaille avec, par exemple, des élèves de CAP, retour de stage. Oh, bah, c'était nul, ils sont foutus de moi. Et comment tu as dit bonjour? Comment on fait des fois 20 minutes sur comment tu serres la main, tu te présentes, tu entres en relation. Et c'est des choses que beaucoup d'ados ne savent pas forcément faire. Alors, chacun avec des milieux différents, chaque trajectoire est différente. Mais les gamins les plus en difficulté, ils ont un manque d'habileté sociale. Donc vous avez là les 10 compétences, je ne vais pas toutes les énoncer, mais donc en gros une dizaine de compétences sur lesquelles on essaie d'appuyer, comme vous dites, en milieu scolaire. Mais il faut aussi dans la famille qu'on travaille la connaissance de soi, l'esprit critique, la créativité, l'interaction, le temps de dialogue, de débat. Résoudre des problèmes, par exemple l'orientation. Qui va décider? Qui va résoudre le problème? C'est le père un peu brutal. Bon, bah maintenant c'est bon, c'est fini, il n'y a plus que... Allez, clac, clac, je te remplis les trucs. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on permet vraiment à l'adolescent de résoudre les problèmes, de cheminer dans le temps, hein, la résolution des problèmes comme... pour organiser son séjour, monter son budget... apprendre à se déplacer aussi, tout ça, ça fait appel à des compétences qui sont importantes dans la vie, qui vont lui permettre de se renforcer. Donc les travaux qui existent, il y a un médecin qui s'appelle Jacques Fortin, qui a beaucoup travaillé sur le développement des compétences psychosociales à l'école. Et il dit que ces compétences, il y a des programmes, hein, qui se développent, et l'IREPS Bretagne fait pas mal de choses, d'ailleurs l'instance de promotion d'éducation à la santé. Donc plus vous développez ces compétences-là chez les jeunes, plus ils sont protégés des addictions et de la violence. En anglais, on dit que c'est des compétences de vie. Donc plus vous armez vos gamins avec ces compétences-là, plus ils font face facilement aux épreuves de la vie. Et donc dans les milieux scolaires, aujourd'hui, les évaluations nous disent à peu près, faut préserver à peu près une dizaine de séances dans une année. Si vous arrivez de façon régulière en travaillant sur certaines de ces compétences, 10 séances dans l'année, ben les gamins acquièrent ces savoir-être, comme ils acquièrent le programme de mathématiques, quoi. Hein, donc ça, aujourd'hui, on est pas mal là-dessus. Je termine sur mon schéma un petit peu trash. Alors, je passe sur des choses pour ne pas être trop bavard. Alors, c'est ça le schéma un petit peu trash. Et je terminerai par un ou deux autres schémas un petit peu trash. Non, mais c'est des vieux trucs. C'est une psychologue des années 70, Diana Baumrind, ce qui est important, c'est d'identifier bien les deux axes. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs les jeunes dans les enquêtes. De quoi tu as besoin? Donc, deux besoins fondamentaux. Un, on va dire, c'est l'axe de l'attachement. Donc, j'ai besoin d'être aimé. Mais on parle plutôt de sollicitude. Donc, la sollicitude, c'est pouvoir s'intéresser à ce que ressent l'autre. Ça rejoint aussi l'empathie. Hein. Donc, bébé tombe, il apprend à marcher, mon petit. Hein. Il tombe, il pleure. Il s'est fait mal au genou. Ou il a peur de s'être fait mal au genou. Maman à court ou papa à court. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit chat? Oh, c'est rien, t'es juste tombé, regarde, y a rien. Hop, le gamin repart. Donc c'est ça la sollicitude, c'est l'axe horizontal. Hein, vous avez des gens qui vous font attention à vous et qui savent répondre à vos besoins en temps et en heure de façon cohérente et qui vont vous permettre aussi de décoder ce que vous ressentez. Donc là, c'est résumé sous le terme attachement, hein, mais c'est le mot sollicitude. En anglais, ils disent responsiveness. Donc comment je suis capable de répondre aux besoins de mon enfant. Donc ça, c'est un besoin fondamental. D'avoir autour de moi des gens, non seulement qui m'aiment, mais qui vont répondre à mes besoins. Hein, qui vont me permettre de comprendre ce que je ressens. Et qui s'intéressent à moi. Et puis le deuxième besoin, c'est un besoin de contrôle, d'autorité. Donc souvent, les jeunes disent, il y a des enquêtes là-dessus, hein, c'est quoi pour vous un bon adulte? C'est quelqu'un qui a de l'autorité et c'est quelqu'un qui est bienveillant. Et le drame, c'est que quand vous dites, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'éducation bienveillante, ou alors vous arrivez, moi ça m'arrive, hein, je travaille avec une quinzaine de collèges actuellement, quand vous parlez de l'éducation bienveillante, mais les gens vous rient au nez. Ah bah oui, donc tu peux plus rien dire, c'est baba cool. Mais non, pas du tout. Parce que l'éducation bienveillante, c'est justement articuler les deux. Je dis à mon gamin que je l'aime et je fais attention à lui, je l'aide à décoder ce qu'il ressent. Alors quand il est bébé, il tombe, il se fait mal au genou. Quand il est plus grand, il ne sait plus trop où il en est. Il a des boutons, des problèmes de peau ou alors un petit souci affectif avec son copain, sa copine. Une inquiétude, un stress. Il ne sait plus parce que... J'ai un gamin qui a eu une belle mention au bac et tout. Le lendemain du bac, il pleurait. Je sais plus. Donc, l'éducation bienveillante, c'est pouvoir s'intéresser à ce qu'il ressent, mais aussi garder notre rôle d'exigence. Et donc là, vous voyez, cette psychologue avait fait... et moi, j'ai repris ces travaux-là. Donc, on a, des indicateurs statistiques pour repérer dans quelle famille sont les enfants et on les interroge sur leur comportement. Ici, c'était des recherches qu'on faisait sur l'alcool. Donc on enlève tous ceux qui sont vers le milieu et on prend que les gamins qui sont dans les extrêmes, donc qui sont dans des familles bien typées. Donc le premier type, donc je vais prendre comme ça dans l'ordre, donc le style négligent. Donc je manifeste peu d'amour auprès de mon enfant. Je m'intéresse peu à lui et je mets peu de cadres. Donc ça va faire un enfant un peu négligé. Donc il va prendre des risques plus par rapport aux consommations et tout. Il va souvent être mal et il va passer à l'acte. Et c'est celui-là qu'on va voir prendre des premières cuites à 11-12 ans. Oui, ça arrive. Je passe là-dessus. Deuxième style, je mets beaucoup de cadres, beaucoup d'autorité. Et je manifeste peu mon attachement et mon amour à mon enfant. Ce qui est important, c'est qu'il marche droit. Et il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que j'ai décidé. Et si ça déconne, je sanctionne, même physiquement. C'est le style qu'on va appeler autoritaire. Alors ça fait des gamins qui sont plutôt normés, ils prennent pas beaucoup de risques. Par contre, quand il n'y a plus les flics autour, ça peut être open bar. Donc c'est-à-dire que c'est des gamins qui font quand même, ils sont habitués à ce qu'il y ait des gens qui exercent un contrôle sur eux, hein. Donc ils sont habitués à faire attention, mais ils intériorisent peu le pourquoi. Ils ne sont pas forcément très libres, hein, mais ils ne prennent pas forcément de risques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien dans leur tête. Troisième style, le style exigeant, ça c'est le style idéal. C'est-à-dire vous arrivez à trouver l'équilibre entre... Donc le style exigeant, c'est je manifeste mon attachement à mon enfant, je parle régulièrement avec lui et je fixe des règles et j'essaie d'expliquer les règles. Et je fais confiance à mon gamin. Hein, je lui explique les règles et je les négocie pas, hein, et je lui fais confiance. Et petit à petit, et puis s'il y a des écarts, je reviens sur les écarts, je peux sanctionner, et le gamin, comme ça, il va intérioriser que je fais attention à lui, il va intérioriser les règles. Et le style qui monte un petit peu en puissance aujourd'hui, c'est le quatrième style, c'est ce qu'on appelle le style indulgent, c'est-à-dire beaucoup d'attachement. Oh mon petit chat, oh je t'aime mon petit chéri, ma petite chérie. Mais je ne vais pas opposer de règles et de cadres, ce qu'on appelle l'enfant prescripteur, c'est-à-dire c'est l'enfant qui décide. Je peux aller à la soirée? Non. Je t'avais dit non, on en a déjà parlé. Mais ils y vont tous! Non. Mais maman, ils y vont... Bon, d'accord. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui... Si vous voulez, on est plus intéressé aujourd'hui par être aimé de notre enfant. Que ça se passe bien dans l'émotionnel et tout, mais on a des difficultés. Moi, c'est un petit peu ça. À la maison, chacun joue son rôle. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop dans le cadre et tout. Bon, chacun est différent, hein, mais... Quand on a la chance d'être à deux pour éduquer les enfants, on peut en plus se répartir les rôles, mais l'idéal, c'est d'avoir ces deux choses-là. Alors, dans les familles plutôt indulgentes, ça va faire des gamins, et bien, dans les statistiques qu'on a produites, qui sont presque aussi à risque que les enfants négligés. Et ça va faire les plus gros scores de victimes d'accidents en soirée et d'accidents de sexualité, on va les trouver dans ces familles-là, parce qu'ils sont désinhibés, ils sont habitués à ce qu'on leur parle d'amour, tout ça. Mais ils n'ont pas intériorisé la limite, quoi. Donc, vous voyez le type. Alors, je ne veux pas trop tergiverser sur les statistiques, les résultats de la recherche, mais je trouve que les deux axes sont drôlement intéressants. Alors, en fait, je n'ai pas à répondre à votre question parce que vous aviez déjà la réponse. C'est vraiment articuler les deux. Donc, une enquête auprès de 800 ados. Les 5 qualités clés des adultes, c'est quoi? C'est des ados qui disent ça, c'est la bienveillance, l'autorité. Et puis la confiance dans l'avenir aussi. Hein, donc on va vraiment retomber très souvent là-dessus, quoi. Et donc pour terminer, donc ce que je voulais dire, c'est... Après, il y a deux approches. Pendant longtemps, il fallait les mater. Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'on a dans notre façon d'éduquer les enfants. C'est la punition, quoi. La sanction. T'as pas fait tes devoirs? Amène ton carnet de correspondance. Dans ta chambre. Et tu vas voir si tu ne me fais pas le truc. Donc, il y a des chercheurs qui appellent ça la violence éducative ordinaire. Pendant longtemps, on a été comme ça dans l'autoritarisme, plutôt le profil autoritaire, quoi. Et aujourd'hui, qu'on a des recherches sur le cerveau et tout, il y a des gens qui regardent. Donc, les gamins, par exemple, qui ont des troubles du comportement, ils sont complètement rétifs à ça. Dire plus vous sanctionnez, plus vous, si vous faites que le contrôle, que l'autorité sans la sollicitude, eh bien le gamin il se blinde. Il faudra cogner toujours plus fort. Et c'est ce qu'on récupère hein, quand on est dans des ITEP ou autre. Il faut cogner toujours plus fort. Ils ont... hein, donc le plus souvent c'est l'humiliation, la colère, les punitions, et les gamins n'avancent pas comme ça. Aujourd'hui, on s'intéresse par exemple à l'ocytocine. Je vais terminer sur du positif. Vous voyez, c'est... Ah, il y a un petit truc qui ne va pas là. Aujourd'hui, on s'intéresse à plutôt justement donc contrôler, mettre des règles, suivre. À quand tu vas sortir, quand tu vas rentrer, je viens te chercher, tout ça. Oui, d'accord, mais avec ça, c'est la sécurité affective, quoi. Et donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est ce qu'on sécrète quand on est bien lové dans les bras de maman. Donc, c'est cette hormone du bien-être. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'avec, quand on est dans une situation de bien-être, on sécrète de l'ocytocine. Ben, c'est ça qui va nous faire apprendre. Ça va lever des inhibitions, ça va nous donner envie de vivre aussi, parce que vous avez des ados qui n'ont plus tellement envie de vivre parce qu'ils sont un petit peu sous pression et dans cette phase d'humiliation et tout ça. Hein, donc ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est ne plus être dans la peur, la sanction, mais plutôt répondre aux besoins de l'enfant. Donc ça veut dire s'intéresser à ce qu'il ressent, à ce qu'il y a à l'intérieur, ou pourquoi prendre le temps de parler. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de règles, mais en plus des règles, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, et donc il y a des recherches qui montrent que dès que vous sécrétez cette hormone d'ocytocine, ça a des réactions en chaîne qui vont être positives pour le cerveau, ça va réduire le stress, ça va mettre le gamin vraiment en situation d'apprentissage. Et c'est ça qui va aider à développer ce fameux cortex préfrontal. Donc l'attitude sécure, si on voulait mettre quelques mots là-dessus, c'est pour un adulte, donc apporter du soin et de la bienveillance au gamin. Être attentif dans l'instant présent, comme dans toute relation. Hein. Vous voyez, quand vous avez votre patron, oui, attends, j'ai pas le temps, machin. C'est stressant, on progresse pas. Hein. Mais essayez, en tant que parent, d'être. Je dis ça, je suis mal placé en plus, hein, parce qu'on est tous pris par nos occupations, nos emails, nos machins. Mais une attention dans l'instant présent, une authenticité. C'est-à-dire ne pas mentir. L'authenticité, ça veut dire, Carl Rogers parlait de congruence, c'est-à-dire pouvoir parler de ce qu'on ressent. C'est dire, moi, ce que ça me fait de voir ta copine qui fume des cigarettes et tout, moi, ça m'attriste et ça m'inquiète pour toi et je ne voudrais pas que toi aussi, tu te mettes à fumer. Je serais déçu si tu fumais, je serais déçu. Donc, être authentique avec nos valeurs et ce qu'on est, et ce qu'on a dit déjà, hein. Chaleureux, confiant, accepter l'autre là où il en est. Donc ça veut dire apprendre, c'est tomber et puis se relever. Hein. Donc il peut y avoir des erreurs qui sont faites et on retravaille ça, mais dans une cohérence. Quoi. Donc ça veut dire aussi qu'on doit apprendre à maîtriser nos émotions. Quoi. C'est pas parce qu'il a fumé qu'on va s'énerver, crier. Non, qu'on arrive à s'apaiser et être dans quelque chose d'assez apaisant et puis dans la disponibilité. Et pour les règles, donc dans l'éducation bienveillante, il faut qu'on ait des règles qui sont claires, qui sont concrètes, que le gamin arrive, et surtout cohérentes. Quoi. C'est-à-dire, je ne change pas d'avis. Nous, la chance qu'on a eue, par exemple, on a passé quand même 3 adolescences, là. Eh ben, on avait dit, non, il n'y aura pas de sortie, dormir chez les copines, avant 17 ans, ce ne sera pas possible. Donc, ils sont venus à l'attaque une fois, deux fois, trois fois, puis après, ils avaient compris. Quoi. Puis on ne s'est jamais énervé et tout. Et puis même dire, mais ma copine elle y va. Mais non, mais c'est pas la peine, on en a déjà parlé. Et puis après le lundi, heureusement que vous nous avez dit de ne pas y aller parce qu'ils sont allés, elle a dormi dans un sous-sol, c'était glauque, c'était moche. Donc enfin, vous voyez, essayer d'être cohérent avec les règles qu'on a données, des règles précises, des règles claires, pas trop nombreuses et indépendantes de notre humeur, quoi. Et je voulais vous dire une dernière chose, mais je crois que j'ai oublié. Donc je vais vous passer peut-être la parole sur ces bonnes paroles. Ça va sûrement me revenir. Alors il y a aussi des adresses, mais peut-être qu'on parlera dans la discussion des bonnes adresses. Parce que j'avais recyclé quelque chose là. Hein. Enfin, je pense que pour les parents aussi, ce qui est important, c'est de ne pas rester tout seul. Quoi. Quand on commence à se poser des questions avec un certain niveau d'inquiétude, ne pas rester seul. Quoi. Parler avec d'autres parents, parler avec des gens qui peuvent nous conseiller. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir ces lieux d'accueil. Alors, je ne sais pas, ici, je pense qu'il y a un point accueil écoute jeune. Hein. La maison des adolescents, ça doit être peut-être Lorient et puis Quimper de l'autre côté. Hein, mais ça, c'est vraiment, vous savez, pendant des décennies, on a milité pour qu'il y ait des lieux d'écoute pour les jeunes. Parce qu'à l'époque, il y avait la PMI, protection maternelle et infantile, donc on protégeait les enfants, les bébés. Mais dans les patates, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les patates, ce qu'on dit, c'est que quand l'adolescent se déconnecte, là, il est aussi fragile qu'un bébé. Hein? Donc, quand le bébé se sépare de maman, il y a ce qu'on appelle la séparation-individuation, c'est-à-dire qu'il comprend que le sein de maman et lui, c'est deux choses différentes. Il y a une séparation physique qui s'opère entre bébé et maman. Et bien, à l'adolescence, c'est une deuxième séparation et individuation. Il se sépare de l'emprise et de la tête de papa et de maman. Et dans ce moment de séparation, il est très fragile. Oui, il est balèze. Mais oui.
On ne l'a pas précisé au début, mais la conférence est enregistrée. Et du coup, quand vous intervenez, il faut passer dans le micro pour qu'ensuite, voilà, on entende les questions ou les...
Merci. Je dis juste, voilà, c'est d'autant plus difficile de comprendre cette fragilité-là que, bah, ouais, physiquement, on a une fille et un petit gars. Un petit gars est plus grand que moi, il commence à prendre des épaules, donc c'est... Voilà, si paradoxal que ça puisse paraître, c'est difficile à comprendre cette fragilité-là. Ouais.
Oui. Parce qu'il y a un retard du cerveau. C'est-à-dire, c'est des grands gaillards. Ouais, ouais. Mais par contre, hein, vous faut retenir cette histoire de cortex préfrontal, comment je négocie, je définis mes stratégies de relation avec les autres, mais ils ne sont pas du tout prêts à ça, ou à gérer leurs émotions. Bon.
Et est-ce qu'on peut expliquer aussi qu'il soit étourdi? Est-ce que ça peut s'expliquer justement par ça? On lui dit quelque chose, deux choses, plus de deux choses, et il oublie, quoi. Il oublie. Et c'est pas de son fait, je suis persuadé. Et il oublie.
Mais oui. Mais vous avez même, il y a des écrits là-dessus, des enfants qui n'arrivent plus à penser. C'est-à-dire, ils arrivent à l'école, ils n'arrivent pas à réfléchir. Parce qu'ils sont envahis par un émotionnel. Donc il y a ça, puis comme ils n'arrivent pas à se projeter, donc vous leur dites, bah, fais bien ton sac hein, pour demain, ou ouais, n'oublie pas, tu as ton pique-nique, ou on se retrouve dans 3 jours. Mais lui, il ne sait pas se projeter. Votre ado, il est dans un instant présent. Enfin, je simplifie. Hein.
Bah alors comment faire? Comment le faire? On lui fait une checklist? On lui fait... Ou tous les 5 minutes, on lui rappelle que...
Bah déjà, répéter beaucoup, ça c'est sûr. Hein. C'est ça la pédagogie, hein. Répéter, puis oui, trouver des astuces, un checklist, un nœud au mouchoir. Hein. Ben oui. Puis renvoyer un petit SMS au bon moment. Ben, les SMS, ça c'est instantané, donc ça marche bien quand même. Quand on organise quelque chose, aujourd'hui, on renvoie des SMS, ils rappliquent tous. Enfin, trouver des astuces, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut comprendre. C'est assez logique qu'ils ne retiennent pas, qu'ils n'anticipent pas, et qu'ils aient même du mal des fois à réfléchir. En tout cas, ils n'anticipent pas les conséquences de leurs actes. En moyenne, c'est 21 ans que cette capacité-là... Donc on n'a pas débattu de l'orientation. Mais vous leur demandez à 16 ans 3 quarts ou à 17 ans 3 quarts de se projeter pour toute leur vie, hein. ils sont pas capables. Donc là, on a un gros travail à faire avec les territoires pour découvrir les entreprises, imaginer des trucs. Et plus on développe cette projection dans l'avenir, cette capacité d'anticipation, plus ça les aide. Hein.
Mais moi, pour avoir eu des ados qui sont un peu grands maintenant, c'est fort compliqué pour eux quand même, à partir de la quatrième, quand on leur demande de s'orienter, d'avoir des pistes, puisqu'ils sont incapables de se projeter. Donc, en fait, ça n'a pas de sens.
Bah oui et non, c'est-à-dire...
Bah oui et non, on est bien d'accord. Mm. Mais oui. Mais ça paraît quasiment impossible pour eux que de se projeter. Alors... Bien sûr, il y en a probablement qui sont déjà quelques-uns, mais pour la majeure partie de ces ados, globalement, leur dire bon ben voilà, qu'est-ce que tu vas faire après le bac,
voilà.
c'est délirant quand même, presque.
Oui, mais parce qu'on a un raisonnement de mec. Projette-toi dans le monde, ô guerrier. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Et la question c'est qui es-tu? Connais-toi toi-même. Donc la connaissance de soi. On est en train de développer des programmes avec l'Académie de Rennes, justement, pour des petits modules pour travailler la connaissance de soi. Parce que la question « qu'est-ce que tu vas devenir ?» ou « où tu vas te caser ?» ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est « qui es-tu »« Qu'est-ce que tu aimes ?» Et du coup, là... Et donc ça, on peut quand même les aider, vous voyez, à se connaître eux-mêmes, à faire le point. Donc, bon... Il y a ce qu'on appelle la méta-analyse. Enfin, toujours travailler la réflexivité. On a fait un truc, on est parti en vacances. Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as appris? Vous voyez, ce genre de choses, se regarder soi, quoi, avoir une réflexivité, se connaître soi-même, faire le point sur nos compétences et tout. Et si, en tant que parent, on fait ça régulièrement, quand on a une petite expérience et tout, ben, ça va les aider à mieux se connaître. Mais souvent, quand on est dans des familles où on ne parle pas beaucoup, on n'analyse pas beaucoup ce qui se passe à l'intérieur, ben, après, les gamins, on leur demande de se projeter. Et là, ça va être le bulletin de notes qui va décider. Donc, moi, j'avais une fille qui n'était pas mauvaise à l'école, elle voulait faire dans la santé, elle voulait aller en techno. Les profs disaient, mais non, faut pas faire bac technologique quand même. Faut que t'ailles en S ou je sais pas. Donc là, c'est le bulletin de notes qui décide. Ça n'a aucun sens. Par contre, la gamine, elle avait un projet assuré. Maintenant, elle est en école d'infirmière. Bon, vous voyez, c'était plus par rapport à elle, qui elle était, et pas par rapport au bulletin de notes ou alors à où il faudrait aller se caser, quoi. Donc on peut quand même, je pense, travailler. C'est pour ça que je parlais des compétences psychosociales, je me permets de les rafficher, mais sur la connaissance de soi, et puis petit à petit, se programmer, oui, voilà, pour décider dans le temps long, quoi, pas faire ça la dernière semaine, parce que c'est ça aussi qui nous met un vieux stress, parce que bon, c'est plus APB maintenant, c'est Parcoursup, là, donc si vous devez tout faire la dernière semaine. Alors moi, c'est vrai que ma petite expérience, nous, on a aussi cherché des petits tests, un peu c'est quoi mes compétences, même sur Ouest France, vous trouvez des trucs qui sont pas mal foutus sur c'est quoi tes compétences, qui tu es, c'est quoi tes points forts, quoi.
Moi, j'ai 4 enfants, l'aîné à 21, la dernière à 7, et moi, j'ai été une sale gamine. Je fais mon témoignage avant pour que vous compreniez où je veux en venir, en fait. On m'a jamais écouté gamine. Donc, j'ai procédé autrement avec mes enfants pour ne pas suivre mes parents. Tout en ils avaient quand même une certaine autorité, il y a plein de choses que je reprends chez eux, mais il y en a tellement que j'ai écartées. Donc, moi, avec mes gamins, depuis qu'ils sont tout petits, on fait des conseils de famille. Dès que ça ne va pas, dès que la maison elle prend une proportion pas possible, je copie un peu, comment elle s'appelait, je ne sais plus, là, sur Assis, je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Super Nanny, là, pour les conseils de famille, j'ai suivi ça aussi, dans les maternelles, ça passait. Par contre, un truc que j'ai fait, dès qu'ils sont petits et qu'ils sont à mal-être, parce qu'il y a 4, il y a toujours un qui embête l'autre, il y a toujours des soucis, des choses comme ça, et que je poursuis à l'adolescence, et même plus grand, puisque avec mon grand, ça nous arrive encore, c'est qu'on va manger qu'avec l'enfant qui a un pépin, qui a un petit problème tout petit, quel qu'il soit depuis qu'il est tout petit, jusqu'à l'adolescence où justement il y a toujours un problème avec l'un, avec l'autre, le physique, la façon de penser qui n'est pas forcément évidente. Et bien ça, sur l'estime de soi, je trouve que ça a vachement porté, quoi. Au niveau de l'enfant, il s'accepte et il accepte aussi la façon de penser de l'autre. Parce qu'on ne le juge pas à ce moment-là, il n'y a pas les frères et sœurs. Et en fait, on avance avec lui et on le propulse aussi, pas dans le meilleur parce qu'on ne sait pas où on va, mais en tout cas, il y a cette... Je trouve qu'au niveau de l'estime d'eux-mêmes, ils ont beaucoup pris. Bien, voilà, c'était mon petit témoignage perso.
Je n'aurais rien à rajouter. Après, il n'y a pas de formule magique, quoi. Chacun peut trouver à sa façon, mais du qualitatif, quelque chose de sécurisant. Oui, oui. Mais c'est un bon exemple, je pense, qui pourrait être pris par d'autres parents. Bon, c'est vrai que nous, on fait un peu conseil de famille. On a 4 enfants aussi, tous ensemble. Mais après, on essaie aussi d'avoir des temps avec chaque enfant, c'est sûr. Mais vous avez dit quand même quelque chose qui est très important, que je n'ai pas dit, c'est quand on grandit comme ça, l'adolescence et se socialiser, c'est accéder à la pensée de l'autre. C'est vraiment l'altérité, accéder au point de vue de l'autre. Alors quand il est ado, il n'aime pas trop le point de vue de l'autre parce qu'il se cherche son propre point de vue. Donc là, il ne faut pas trop l'envahir, il faut le laisser poser son point de vue. Mais petit à petit, il doit comprendre que l'autre a un point de vue aussi et qui n'est pas jugeant, méprisant, humiliant. C'est ce que vous avez bien expliqué, quoi. C'est quelque chose qui est posé, qui est sécurisant, mais en même temps, ce n'est pas jugeant. Mais il y a bien un autre point de vue qui est face à l'ado, et c'est ça qui va l'aider à se positionner. Bon, qui n'a pas de problème avec ses ados ? Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être... vous laissez conclure, on peut prendre peut-être 2-3 petits mots. Avec quoi vous repartez ? Madame, je retiens qu'on repart avec un petit temps d'altérité en face à face privilégié, un petit repas pour chacun quand ça va pas. Vous repartez avec quoi? Est-ce que vous voulez, deux, trois personnes peuvent nous dire un petit mot avec quoi ils repartent de cette soirée avant de conclure? J'ai vraiment honte de moi, du coup. Allez-y.
J'essaie d'être, comment dire, bienveillante, et je pense que j'essaie d'être conciliante avec ma fille, enfin d'être. Et votre schéma sur l'éducation autoritaire,
indulgente,
tout ça. Effectivement, du coup, je pense que ça me recadre un peu et.
Vous repartez
ça
avec quoi?
Ça m'a fait réfléchir, en fait.
Donc vous repartez avec quoi? Plus de sollicitude, vous voulez dire, ou...
Non, je pense que j'ai quand même de l'autorité. Enfin, même des fois, je trouve qu'il y en a trop. Enfin, je suis un peu exigeante. Enfin, pas de l'autorité. Je suis exigeante, mais certainement un petit peu trop indulgente. Et je pense que là, ça va un peu me faire réfléchir. Je pense que c'est surtout ça. Là, enfin, il y a plein de choses qui étaient. C'était vraiment très intéressant. Mais c'est surtout ça qui va me faire tilt et qui va me continuer à trotter derrière. Voilà.
Alors il y a dans l'extrême, c'est le parent voyager, c'est des chercheurs qui parlent comme ça. C'est-à-dire, c'est le gamin qui sait où il va, puis il vous pilote, puis vous, bah, vous prenez les billets, vous faites le sac. Et... C'est ça le parent voyager, c'est vous pilotez plus rien, mais vous gérez l'intendance. Quoi. Allez-y, madame.
Oui, alors vous avez de nombreuses fois parlé d'âge, mais moi je parlerai aussi de maturité, parce que j'ai également 4 enfants, et je pense qu'au niveau de la maturité, ils sont tous différents. Et moi, j'en ai un qui m'a fait sa crise d'adolescence à 11 ans, l'autre qui l'a fait plus tard et plus virulente. Enfin bon, sur les 4, ils sont tous différents. Et je pense qu'on ne peut pas forcément mettre un âge.
Ah oui.
Et ça m'a un petit peu, voilà, non pas gêné, parce que je comprends que ce sont des généralités, mais en même temps, voilà.
Oui, je suis bien d'accord avec vous, hein. C'est pour ça que pour moi, c'est ce petit schéma avec les patates. C'est, il y a un moment où il va réussir à négocier avec l'altérité, et ça, il n'y a pas d'âge. Il y en a, c'est dès la quatrième, ils ont ça, puis d'autres, ça va demander 25-30 ans. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un âge biologique, c'est une maturité sociale qui est liée à notre éducation, environnement, histoire. Allez-y, hein, je ne sais pas qui sera le prochain ou la prochaine.
Et 18, donc j'ai l'impression que c'est derrière moi. J'ai l'impression
ça peut revenir,
ça peut revenir en boomerang, effectivement. Mais pour autant, c'est ça, c'est cette sensation que, quand même, quand on est dedans, parfois c'est compliqué, c'est un peu difficile. Mais de ce que je retiens, c'est quand même il y a un moment où ça passe, quoi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dernièrement, c'est que. Mes enfants, enfin ma plus grande a eu le courage de me dire, oh, mais tu sais, tu radotais, tu disais tout le temps, voilà, on a l'impression quand même que voilà qu'on radote. Et mais merci d'avoir radoté, parce que ça nous a servi. Et quand on entend ça, on se dit, ah bah quand même, quelque part j'ai bien fait. Et ça, c'était aussi ce positif. Et puis cette histoire de patate qui fait que effectivement, une fois que on est passé là et qu'on arrive, on a l'impression, alors après, bon, je ne veux pas trop crier victoire, mais l'impression quand même que c'est derrière soi et que finalement, c'est plutôt positif et qu'on s'en est plutôt bien tiré. Il n'y a pas que y a des moments compliqués, hein, comme pour tous les parents, mais voilà, ça passe.
Oui. Alors ça, c'est les travaux de Jean-Pascal Assailly, hein, qui a travaillé sur est-ce que c'est plus les copains qui influencent ou les parents, et sur le long terme, c'est bien tout ce qu'on a rabâché qui va transmettre à l'enfant une philosophie de vie. Donc on va conclure, je pense. Je vous remercie en tout cas de votre patience et de votre attention. Merci.